Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à tous, chers auditeurs et auditrices, et merci d'être avec nous ce soir dans l'émission Au bout du foot, présentée par Eladji Makalou. Avec nous aujourd'hui, trois chroniqueurs, dont Salson. Comment ça va, Salson?
Ça va, Eladji, ça va, on est là. Hein.
Tranquille.
Et toi, ça se passe?
Ça va, ça va.
Nickel.
Avec nous, on a un revenant, Lucas. Comment ça va, Lucas?
Ça va, et toi?
Ça va, super. Et un nouveau, sa première, Maxence. Comment ça va, Maxence?
Ça va, et toi, Eladji?
Ça va, super. Bah, aujourd'hui, on va parler de foot, comme d'habitude. Avec des nouveautés, hein. On a eu quelques petites bombes qui sont tombées ce matin. On va en parler. Et avec ça, on va dérouler avec un petit sommaire. Ça sera autour du Paris Saint-Germain. On va commencer tout de suite avec la petite polémique autour de Ousmane Dembélé et les échéances à venir. Avec une petite virgule. On va. Le PSG qui devra aller chez les Gunners à Arsenal mardi. Comment vous le sentez, Salé? Comment tu le sens?
Bah là, c'est rendez-vous demain, quoi. C'est rendez-vous demain. Pour le moment, ça va être un match, je pense, équilibré, parce que les deux équipes, elles ont à peu près le même style de jeu. Ça va être on va assister à un bon match avec du beau jeu. Ça va être une bataille très tactique, parce que ce sont deux coachs qui sont assez à cheval sur la tactique. Donc, on va voir comment ça va se passer. Et ça va se passer sans Dembélé aussi. Donc, voilà, on va voir comment l'équipe se débrouille. Et je pense qu'on a quoi faire, parce qu'on est plus dépendant d'un seul joueur maintenant.
D'accord, ça c'est ce que tu dis, mais Lucas n'a pas l'air très d'accord avec son petit sourire. Vas-y, Lucas, dis-nous.
Non, en fait, c'est pas que je suis pas d'accord. C'est évidemment, je trouve que c'est une bonne chose que le PSG soit plus dépendant d'un seul joueur, Mbappé en l'occurrence, on va le dire. Mais là, Dembélé, il avait quand même une vraie. Il est en train de prendre une certaine ampleur dans le collectif depuis ce début de saison. On a l'impression qu'il assume ses responsabilités, qu'il marque plus. Et le fait qu'il ait un problème disciplinaire et qu'il soit un peu stoppé dans son élan, c'est quand même dommage, surtout pour le premier gros test de l'année.
Maxence, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je pense que c'est un gros test pour le PSG. On ne sait pas trop s'ils sont prêts pour ça. C'est un adversaire d'un niveau que le PSG n'a pas encore rencontré cette année, notamment au niveau de l'intensité. Là, le PSG, on n'est pas sûr qu'ils vont avoir la possession. On n'est pas sûr qu'ils vont pouvoir mettre en place leur jeu avec Arsenal en face, qui est habitué à ce type de gros match contre City il y a une semaine notamment. Moi, je pense que, enfin, comme ça, je le sens pas. Je le sens pas très très bien.
Ok, mais si on regarde un peu les clubs anglais en Ligue des Champions, ils ont un peu du mal hein, ces dernières saisons, à part Manchester City, même eux qui avaient du mal hein, parce que si on repense à leurs dernières échéances, à part le sacre, c'était très moyen quoi. Ils tombaient contre des petites équipes, des fois contre Lyon, des fois contre Chelsea qu'ils ont toujours eu l'habitude de battre en première ligue, et ils perdent une finale contre Chelsea. Les clubs anglais, même là, on a pu voir même Arsenal face à l'Atalanta, c'est un penalty loupé du côté de Retegui. L'Atalanta ont dominé leur sujet. Arsenal ont du mal en Champions. Du coup, est-ce que ça nous donne pas un peu plus de confiance, nous, aux Parisiens?
C'est vrai. Côté Arsenal et côté anglais en général, leur championnat, il est tellement intense, tellement difficile tous les week-ends qu'ils perdent forcément des plumes pour la semaine. Après, cette nouvelle formule de Ligue des Champions avec la formule suisse poule à 8 matchs, etc., ça permet de niveler tellement les valeurs que si on a une défaite, deux défaites, on peut avoir le droit à l'erreur, quoi. Donc les grosses équipes, il y en a qui peuvent se permettre de laisser quelques matchs passer et se dire qu'elles se qualifieront un petit peu plus tard. Donc pour moi, ce match-là, il n'est pas non plus capital, que ce soit pour le PSG ou pour Arsenal. Le PSG a déjà 3 points, ils auront d'autres matchs après qui seront, il y en aura des difficiles, mais il y en aura des plus abordables. Donc il est important, mais pas décisif.
D'accord. Et Lucas, toi, qu'est-ce que t'en penses du fait que là, Ousmane Dembélé soit mis à l'écart, en sachant que même son petit frère a fait une petite vidéo. Son petit frère a fait une vidéo et a dit oui, vous parlez, mais vous ne savez pas grand-chose. Nous, en tout cas, de ce qu'on sait, en tout cas, il s'est pris un peu la tête avec le coach. Le coach a dit que non, il s'était pas pris la tête avec le coach et que c'était plus avec l'équipe qui manquait de respect à peu près de ce côté-là. Et ce que son petit frère a dit oui, le PSG le prenne un peu pour des cons. Du coup, ils lui ont dit tu fais pas la passe. Et lui, il a dit bah, faites la même chose, ne me faites pas la passe non plus. C'est parti un peu en clash. C'est ce qui s'est dit. En tout cas, c'est ce que son petit frère a relaté dans une vidéo face cam dans sa voiture.
Les petits frères font des vidéos pour expliquer les problèmes des vestiaires. Maintenant, c'est pratique. Ce que j'ai à dire, déjà, je trouve que c'est une bonne chose qu'il ait été écarté s'il y a un vrai problème disciplinaire. Ça fait des années qu'il y a beaucoup de supporters du PSG qui disent qu'il n'y a plus d'institutions, que les joueurs font ce qu'ils veulent. Là, Luis Enrique, je pense qu'il a plus de liberté, entre guillemets, vu qu'il n'a plus Mbappé, plus un joueur star qui va attirer toute l'attention. Donc, il peut plus mettre en avant un projet qui lui correspond. C'est un projet qui est très collectif, on le voit dans le jeu qu'il souhaite développer. Pour cela, il a besoin de joueurs qui font quand même la différence, et Dembélé, en ça, il est important. Après, moi, je pense qu'il peut y avoir des problèmes de vestiaire, ça arrive, et de ce qu'a dit Luis Enrique, je ne crois pas forcément que c'est un problème qui ne le concerne pas lui, c'est juste qu'il estime que s'il n'est pas collectif, c'est envers ses coéquipiers qu'il a des responsabilités, et en fait, je pense qu'il est en train d'essayer d'instaurer un vrai état d'esprit collectif dans l'équipe, et que ça passera par ce genre de décision.
Et Nasser Al Khelaifi qui donne son soutien total à Luis Enrique, hein, en fait, de ce qui se dit. Et j'ai oublié de relater aussi que son petit frère avait dit que Ousmane Dembélé ne joue pas car il a une gêne au niveau du mollet et au niveau de la cuisse. Voilà, c'est ce qu'il a dit aussi. En plus, je ne sais pas. Salé, toi, qu'est-ce que tu en penses?
On va jamais savoir la vraie.
En plus, Dembélé, c'est ton cousin, en plus de nom. De nom, hein, c'est ton cousin.
On va jamais savoir la vérité. Après... De toute façon, si l'USRK l'a mis de côté, je pense qu'il sait pourquoi. On va pas polémiquer. Maintenant, comme Lucas l'a dit, ça fait des années qu'on... Si c'est vraiment disciplinaire, ça fait des années qu'on demande d'avoir un coach qui soit ferme, autoritaire. Autoritaire. Ouais. Et là, on l'a aujourd'hui. Maintenant, on va pas s'en plaindre. Hein. S'il a décollé, bah, qu'il soit puni, ça c'est logique. Donc moi, je vois aucun problème là-dessus. Maintenant, que ce soit une gêne musculaire ou autre, bah, encore une fois, on n'en saura pas plus. Donc de toute façon, je pense pas qu'on va savoir la vérité d'ici là. Maintenant, voilà, je pense que dans tous les cas, s'il est écarté, c'est pour une bonne cause.
D'accord, donc pour vous, c'est une bonne gestion, le fait que Ousmane Dembélé soit écarté, même avec l'échéance à venir. Parce qu'en allant jouer à Arsenal, je me demande qui est-ce qui va faire jouer à droite. C'est quoi vos préférences, vous, pour vous, la tactique qu'il devrait adopter ou le joueur qu'il devrait mettre à droite à la place de Ousmane Dembélé?
Moi, Colomani, avec Kanginli dans l'axe.
Avec Kanginli dans l'axe.
Ouais, comme ça a été ce week-end, je trouve que ça a très bien marché. Je trouve qu'il a été vraiment super bon. Moi, faut rappeler que l'an dernier, le Kanginli a quand même fait les Jeux Asiatiques pour éviter de faire son service militaire d'un an. Qu'après, il est revenu au PSG et qu'après, il a joué la Coupe d'Asie des Nations. Donc, en fait, il a une année d'adaptation au PSG qui est complètement tronquée. Et s'il explose cette année, ça ne m'étonnera pas. Parce qu'il a vraiment des grosses qualités, ce joueur. Et ouais, j'ai beaucoup aimé son match en faux neuf. Et je trouve de toute façon que Colomoigny est meilleur sur un côté qu'en pointe au PSG. Donc, moi, Colomoigny à droite et Kanginli, je pense que c'est la meilleure. La meilleure solution pour ce match.
Okay. Maxence, tu as une alternative à nous proposer?
Moi, j'aurais fait l'inverse. J'aurais mis Colomoigny dans l'axe et Kanginli côté. Après, la formule, elle peut évoluer au cours du match. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais voilà, moi, j'aurais commencé comme ça, sachant que Asensio est blessé aussi. Et puis, on sait que Luis Enrique, il adore cette formule faux neuf. Donc y a une probabilité importante pour que ce soit Kanginli devant.
Ok. Et toi, Salson?
Pour ma part, moi, j'aurais pu suivre Maxence parce que j'aimerais bien laisser la chance à Colomoigny à ce poste de numéro 9, qu'on arrête de le manquer de respect.
Bah, c'est vrai qu'il a, excuse-moi de te couper, mais c'est vrai qu'il a ce jeu de tête aussi que Kanginli n'a peut-être pas, mais qu'on devra surtout, on sait que chez les Gunners, il y a des bons joueurs de tête, surtout défensivement avec les William Saliba, et Gabriel, etc. Gabriel, et Gabriel aussi, Gabriel qui est redoutable même sur les phases offensives même. Du coup, on se dit... Qui pourra leur tenir tête sur des coups de pied arrêtés si ce n'est pas des tactiques travaillées, quoi.
C'est ça, il est là, et c'est ça le problème aussi. Mais après, je rejoins Lucas parce que Colomoigny, moi, j'ai toujours trouvé meilleur sur le côté que dans l'axe. Ça, rien à dire, même quand tu vois ses entrées, même les matchs qu'il a fait auparavant. Après, les deux sont probables. Hein. Les deux sont probables, c'est faisable. On va voir ce qu'Enrique va nous proposer demain.
D'accord, toi, tu es d'accord avec les deux. Tu es d'accord un coup avec Maxence à droite. Ouais, un coup tu dis faut le respecter, faut le mettre en pointe.
Mais plus sur le fait de... Parce que je pense que lui, il a plus envie de jouer neuf. Mais plus lui donner sa chance de... Parce que depuis que Ramos, il a été blessé, il n'a pas eu vraiment de véritable chance d'être titulaire et d'enchaîner les matchs. Là, il a l'occasion d'enchaîner les matchs et de nous prouver qu'il a vraiment le niveau. Sauf que là, ça ne s'est pas passé. Et ça, je trouve que... Tu vois, tu mets un faux numéro 9, c'est limite, tu préfères mettre un milieu relayeur en faux numéro 9 que mettre Colomoigny qui, lui, peut jouer 9. Et ça, c'est des fois, ça c'est un mauvais message aussi pour ce joueur, pour sa confiance aussi.
D'accord, merci Salson et merci à Maxence et à Lucas pour vos analyses sur le Paris Saint-Germain avec l'échéance à venir. On va parler aussi de ce qu'ils font en Ligue 1. Et en Ligue 1, le PSG sont en tête avec Monaco à égalité. Marseille qui ont perdu quelques plumes. Quels sont vos avis pour vous
Bah, le championnat, pour l'instant, est toujours aussi serré. Ça restera serré. Bon, maintenant, on a été un peu, on va dire, surpris par le score de Marseille hier soir. Après, laisse Monaco, ça continue à faire son travail, et le Paris Saint-Germain aussi. Maintenant, c'est pas fini, hein. C'est que le début, c'est un faux pas. On va voir ce qui va se passer dans les week-ends à venir. Mais un peu choqué que Marseille ait perdu son match d'hier, sachant que la semaine dernière, ils nous ont délivré une bonne prestation à 10 contre 11 face à Lyon.
En vue du match, est-ce que tu es choqué du match, Maxence? En vue du match, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, est-ce que tu es choqué du résultat?
De l'OM?
Oui.
Je suis pas choqué du résultat parce que depuis le début de saison, Marseille s'en tire très bien sur pas mal de matchs, notamment Lyon où ça gagne et ça m'a rendu très heureux en tant que supporter de l'OM. Mais c'était
on
pas
dirait
forcément...
pas comme ça. Avec ton analyse depuis le début, j'aurais dit le contraire.
C'est être objectif. Okay. Hein, on va pas se cacher. Mais non, voilà. Donc Marseille s'en est bien tiré sur le match contre Nice où ça gagne 2-0, mais c'est pas forcément mérité. Le match contre Lyon où c'est aussi un petit hold-up, on va dire. Donc là, c'est le juste retour des choses. On va dire que les prestations, elles ne sont pas abouties à 100%. On tombe contre une belle équipe de Strasbourg à domicile qui va être dure à jouer. Je pense qu'ils feront d'autres grosses prestations dans l'année parce qu'avec leur coach Liam Rossignol qui a des idées hyper sympas. La semaine dernière, ils ont tenu Lille en échec à Lille. Cette semaine, ils battent l'OM à la Méno. Franchement, ça va être dur. Il y a des bons petits joueurs, Nanasi et Mega. Ils te proposent un pressing tout terrain. Donc c'est hyper... C'est hyper difficile de s'adapter pour les équipes de Ligue 1 qui n'ont pas du tout l'habitude de ça.
Avec Emega notamment, qui a eu au moins 2-3 balles de break, des face-à-face vraiment, où il aurait pu faire la passe et conclure le match. Qu'est-ce que t'en penses toi, Lucas, de ce match?
De toute façon, moi je pense que Strasbourg, ils vont surprendre du monde cette année. Que ce soit le coach ou les joueurs, moi c'est Nanasi moi, qui me régale. Je trouve qu'il apporte un truc, il aère le jeu, il est technique, c'est beau à voir. Moi j'aime beaucoup, je ne le connaissais pas du tout, hein, j'avoue, il y a encore 4 journées et je le trouve super fort. Je pense que en fait, c'est comme il disait, un juste retour des choses, puisque Marseille va forcément perdre des matchs cette année. Je pense qu'avec le projet des Herbis, ils ont des joueurs jeunes, ils vont monter en puissance. C'est normal qu'au début, qu'il y ait des couacs, qu'une équipe comme Strasbourg, qui n'a pas grand-chose à perdre et qui a un coach qui met des choses en place, des joueurs qui en veulent, ça puisse être une contre-performance. Ça ne me choque pas à autre mesure. Maintenant, c'est dans la durée qu'on va les attendre. À Marseille, ils n'ont que le championnat à jouer. Ils ont Rabiot qui va prendre de l'importance dans leur milieu de terrain. Ils ont des défenseurs qui ne seront pas tout le temps blessés. Donc non, Marseille a une très, très... belle carte à jouer, mais je pense quand même que Paris et Monaco, vu leur effectif, ils vont quand même faire la course en tête toute la saison.
Merci pour ces analyses. On va se faire une petite virgule avant de revenir pour développer sur le reste de la Ligue 1. Et faut pas oublier le milieu de tableau et vers la fin de tableau aussi, hein, parce qu'on pense à nos amis lyonnais qui sont... un peu, bon, il se rattrape un peu en vue des dernières performances, même si ça n'est pas super mérité. Mais on va dire que ça compense le match contre Marseille. On ne sait pas si on fait de la compensation ou quoi. Mais on a des belles affiches, on a des beaux matchs depuis le début de saison, faut le dire. Et qu'est-ce que toi, t'en penses de l'Olympique lyonnais depuis le début de saison, Salé?
Bah, de toute façon, la semaine dernière, on en avait parlé. On dit que sur le papier, de toute façon, ça reste y a des très beaux joueurs, il y a de la qualité dans cet effectif. Maintenant, je pense que la formule n'a pas été adaptée. Pour cette équipe, ils jouent en 3-5-2, je crois, quelque chose comme ça. Et maintenant, là, sur les derniers matchs, il a vu que ça part pire. Sage, il a vu que ça s'est pas bien passé. Il leur passe en 4-3-3, si je dis pas de bêtises aussi. Là, il leur passe en 4-3 depuis deux matchs, et depuis deux matchs, ça gagne. Donc,
il change de tactique en cours de match.
Quand il fait rentrer Cherki.
Et surtout contre l'Olympiakos, ils font un très bon match. Ils ont dominé l'Olympiakos. J'ai bien aimé comment ils se sont comportés. Et moi, je pensais qu'ils allaient être un peu peut-être affaiblis par rapport au match de Marseille, mais pas du tout. Ils ont vraiment montré un nouveau visage. Et ils ont enchaîné encore ce week-end avec une différence de Cherki derrière. Bah, c'est le but de Malik Fofana qui, lui, fait des belles entrées depuis le début de saison. Il est récompensé et ça fait plaisir. Après, on va voir comment ça va se passer, mais je pense que ça va continuer. Ils vont grimper et rattraper un peu leur retard.
Et Brest, qui se sont pris une déculottée face à Auxerre, c'est la question qu'on se pose à chaque début de saison. Hein. Une équipe qui joue l'Europe et qui n'a pas les armes pour jouer l'Europe, parce que quand ils sont qualifiés pour l'Europe, ils vendent leurs meilleurs joueurs et ils se retrouvent maintenant avec de joueurs un peu moindres, on va dire, et avec un effectif plus réduit aussi. Voilà, du coup, juste pour jouer sur les deux tableaux. Est-ce que ça ne porte pas préjudice à nos équipes françaises, Maxence ?
Moi, je pense au-delà de la qualité des joueurs, le problème de Brest, ça va être la profondeur de l'effectif. C'est-à-dire que la richesse d'effectifs, surtout avec cette nouvelle formule Ligue des Champions, je me répète, mais avec au moins 8 matchs à jouer, plus éventuellement des 16e, ça fait un nombre de matchs dans le premier trimestre, premier semestre, qui va être complètement dingue pour Brest. Pour des équipes comme Monaco, comme le PSG, en Ligue 1, ça peut se permettre de faire tourner 4, 5, 6 joueurs. Le Brest, dès qu'ils ont un petit peu la tête ailleurs, dès qu'il manque un ou deux mecs, ça se voit tout de suite. Et ce week-end, ça s'est ressenti, à mon avis. La plupart, ils savent que la Ligue des Champions, ils la joueront une fois dans leur carrière. C'est maintenant. Donc, ils n'ont pas envie de se blesser à 3 jours d'un match important. Ils ont fait une belle prestation sur leur premier match de Ligue des Champions. Ils ont encore un match qui est, entre guillemets, abordable. On y reviendra tout à l'heure face à Salzbourg. En tout cas, ils ont leur carte à jouer. Donc ils n'ont pas envie de... Enfin, c'est compliqué d'enchaîner tout ça pour un club comme Brest. Donc, à mon avis, s'ils arrivent à se maintenir et à faire des belles prestations en Ligue des Champions, ce sera une saison qu'on pourra qualifier de réussie pour eux.
Merci, Maxence. Et Saint-Étienne, qui ont su revenir dans la bataille face à Nantes, après 2-0, qu'est-ce que t'en penses avec 2-2, avec un doublé d'Ibrahima Sissoko? Qu'est-ce que t'en penses, Lucas?
Saint-Étienne, quand même, ils restaient sur une sacrée déculottée. Il faut rappeler qu'ils ont pris 8-0 à Nice la semaine dernière, donc ouais. Je pense qu'ils avaient un peu la pression. Ils n'ont pas voulu lâcher, c'est tout à leur honneur. Après, ils ont l'air quand même voués à vivre une saison difficile, Saint-Étienne. Que ce soit dans le jeu, on voit des concurrents qui proposent des choses plus ambitieuses ou la profondeur de l'effectif et les talents individuels. Ça va être difficile pour Saint-Etienne, il faut qu'ils prennent des points dès maintenant. Et c'est un bon point qui a été pris contre Nantes, qui joue pas mal en ce début de saison aussi.
Ouais. Je tiens à rappeler le classement, quand même le PSG premier avec Monaco à égalité de points en différence de but. Le PSG est légèrement devant avec une différence de but de plus 15 par rapport à Monaco qui sont à plus 9. Marseille avec 13 points, 4e Reims avec 11 points et on retrouve Lille 5e avec 10 points, Lens avec 10 points, ex aequo 6e avec Lille. Et en fin de tableau, Angers qui ont pu gratter que 2 matchs nuls et qui sont... à 2 points en 6 journées avec Saint-Étienne 17e et Barragiste 16e, Montpellier avec 4 points. Voilà pour la Ligue 1. On va enchaîner maintenant avec la Ligue des Champions, avec les échéances à venir. On a pu parler du PSG avec ce qui va arriver, mais il nous reste encore 4 clubs français quand même en Ligue des Champions. Notamment, on va parler de Monaco qui ont réussi le joli coup il y a une semaine déjà face au Barcelone, au FC Barcelone, et là qui vont aller jouer au Dynamo Zagreb. Qu'est-ce que vous en pensez, Salson?
Ouais, Monaco, de toute façon, ils font un très bon match contre le FC Barcelone, même malgré que le FC Barcelone soit réduit à 10, mais ils ont quand même montré une belle prestation, un beau visage. Et en championnat, c'est pareil, ils font un très bon début de saison, donc je pense que ça va être la continuité. Dynamo Zagreb, c'est prenable. Surtout qu'après, il faut faire attention parce qu'ils viennent de se prendre quand même 9 buts par le Bayern Munich. Donc, je pense qu'il
avec
aussi,
un coach qui a été limogé.
Donc, il y a de la nouveauté qui arrive sur le banc. Donc, il y a de nouvelles mentalités, nouveaux jeux. Mais bon, c'est toujours compliqué de jouer les équipes qui viennent de changer de coach. Mais pour moi, Monaco, je mets une pièce sur Monaco et qui sont favoris pour moi dans ce match.
Je pense que tout le monde voit Monaco favori.
Ouais, moi j'ai même plan. Monaco doit gagner en fait. Les clubs français ont souvent tendance à aller faire un gros résultat et à se reposer sur leur laurier derrière. Et ce type match au Dynamo Zagreb, c'est typique du match piège avec des joueurs qui peuvent être orgueilleux justement parce qu'ils viennent de changer de coach. Et vraiment, c'est les matchs qu'il faut gagner pour se rendre la suite de la compétition facile. Parce qu'à la fin, 8e, 9e, il y en a un, t'as un barrage, il y en a un, t'en as pas. Donc ça peut être le genre de match qui peut te faciliter la vie sur la compétition.
Ok, Maxence.
Ouais, je suis totalement d'accord. Pour moi, Monaco doit se permettre de viser les 8 premières places et d'aller en 8e de finale directement. Ils ont un calendrier qui est désormais abordable après avoir battu le Barça et ça passe par ce genre de match. Dynamo Zagreb, on les a vus contre le Bayern, voilà, il y a des faiblesses, il y a des grosses lacunes pour en prendre 9 quand même malgré la puissance offensive du Bayern. Donc pour moi, Monaco, ils n'ont pas le droit à l'erreur demain. Ils doivent s'imposer comme un outsider crédible aux 8 premières places.
Ok. C'est très clair, oui, Monaco doit s'imposer et on espère que Monaco va s'imposer. Ça va être un peu plus compliqué du côté de Lille qui vont recevoir les tenants du titre, le Real Madrid avec Kylian Mbappé qui est dans le groupe finalement. Oui, Kylian
c'est
Mbappé.
Pas 3 semaines finalement, la
non,
blessure.
Finalement, oh, Kylian Mbappé qui est dans le groupe. Voilà, déjà rétabli, hein, on peut dire, ou en tout cas déjà, s'il est dans le groupe, je pense qu'il va jouer. Même si, c'est rentré en, même si c'est rentré un peu en jeu. Oui, mais son frère est blessé.
Hein, ouais.
Son frère s'est blessé à 2-3 mois, apparemment. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé. 2-3 mois, oui. Du coup, Ethan, ses débuts sont difficiles avec Lille. Et voilà, du coup, Kylian Mbappé déjà rétabli. Lucas, toi, t'en penses quoi? Lille, Real Madrid?
C'est pas sur ce point-là qu'ils doivent absolument gagner des points. Il faut se faire plaisir. Pour moi, dans ces matchs-là, t'es le LOSC
ah ouais, là,
à domicile.
On prend le plaisir, c'est tout.
Ouais, parce que toi, il y a des matchs où je me dis, tu dois y aller à fond. Là, faut... évidemment, si tu fais quelque chose, c'est magnifique. Mais quand je dis prendre du plaisir, ça veut dire pas y aller à 10 derrière, pas y aller en ayant peur, parce que sinon, tu prends pas de plaisir. Et en plus, tu risques de perdre le match parce que les joueurs du Real sont trop forts. Donc, autant tu vois y aller, proposer du jeu, être devant ton public, faire quelque chose, proposer un contenu attractif. Moi, je pense que c'est ça l'objectif de Lille. Des points, ils en prendront d'autres. Et le Real, en début de saison, c'est compliqué quand même.
Et toi, Maxence?
Pareil, je suis très inquiet pour Lille demain soir, mais bon, c'est assez logique. Pour moi, c'est un match que les joueurs vont avoir envie de jouer, le public va avoir envie de voir ça. C'est pour ça que les équipes se battent toute l'année pour être en Ligue des Champions. C'est pour ce genre de match, recevoir le Real, recevoir le Barça, recevoir ce genre d'équipe. Après, je suis un peu inquiet pour Lille par rapport à la Ligue des Champions. J'ai peur que leur parcours se transforme un peu en catastrophe. On a vu qu'ils avaient été... surclassé pour moi par le Sporting sur le premier match. Sporting ouais. Qui est une belle équipe, mais qui n'est pas un ogre européen.
Oui,
là, ils jouent pour le coup un ogre européen. Donc j'ai peur que ça se passe mal aussi, qu'on rentre dans une spirale qui soit un petit peu compliquée. En Ligue 1, bon, ça a été mieux ce week-end, mais ils n'ont pas fait un début de saison non plus éclatant. Donc je suis un peu inquiet pour Lille jusqu'à Noël. Là.
Je pense qu'on a des raisons d'être inquiet pour Lille, mais en tout cas on leur souhaite pourquoi pas l'exploit. Hein. On repense à Toulouse face à Liverpool la saison dernière. Hein. On sait jamais.
Toi tu le souhaites l'exploit personnellement?
Personnellement oui, je le souhaite pour nos clubs français bien évidemment. Bien évidemment je le souhaite pour nos clubs français. Et on va du côté de Salzbourg face à Brest. Voilà, Salzbourg face à Brest, on en a parlé un peu. Salzbourg qui sont favoris quand même. Hein. Brest qui aurait pu prendre des points en plus, en tout cas la différence de but face à Sturm Graz, parce qu'ils ont loupé pas mal d'actions, et ça j'espère que ça ne va pas leur porter préjudice. Et là, ils vont jouer contre Salzbourg. Salzbourg qui ont l'expérience quand même de la Ligue des Champions, qui ont réalisé des jolis coups ces dernières années, notamment je pense au match nul face au Bayern Munich. Voilà, ils sont présents, c'est une équipe quand même assez abordable, mais quand on voit cette équipe de Brest dernièrement, est-ce qu'on peut être confiant, Maxence?
Non, on ne peut pas être confiant, ils ne sont clairement pas favoris. Salzbourg, c'est une équipe qui a l'habitude de ce genre de compétition, que ce soit l'Europa League, que ce soit la Ligue des Champions. C'est des joueurs qui connaissent ces joutes européennes, donc là-dessus, voilà. Après, ils ont fait une mauvaise prestation sur leur premier match, ils perdent 3-0 au Sparta, donc c'est une contre-performance assez importante, donc je pense qu'ils auront... Ils ont envie de se racheter et d'exister dans cette compétition. Pour Brest, j'ai un peu l'impression, moi, que maintenant, ça va être plaisir, 100% plaisir. Ils ont passé le truc. Ils ont commencé avec Champions en se disant, si on fait 0 points, c'est pas grave. Il y a déjà des équipes qui l'ont fait avant nous, etc. Là, ils ont gagné leur premier match. Maintenant, j'ai l'impression que ça va être voilà, le festival, les photos, les selfies, le truc. Mais j'ai du mal à les voir comme un outsider crédible pour être dans les 24, personnellement.
Même dans les 16.
Ah oui,
c'est
mais
c'est les 24, c'est
oui, les 24. Mais pourquoi pas? Bon, on sait que contre Leverkusen, ça va être compliqué, mais aller faire un résultat à Sparta-Prague, même essayer de tenir un match nul, c'est possible. On rappelle, ils jouent à domicile après contre le PSV Eindhoven, ils vont au Shakhtar avec un match délogé qui ne joue pas à domicile pour le Shakhtar. Bon, après, ils jouent à domicile contre le Real Madrid, ça va être un peu compliqué, mais sinon, le reste, franchement, au bout de 8-9 points, tu peux espérer être dans les 24 premiers. Salé, t'y crois pas du tout?
Franchement, Brest, moi, c'est une équipe, je suis depuis le début de saison. Après, Maxos, il a souligné une bonne chose, c'est qu'ils n'ont pas assez de profondeur dans leur effectif. Déjà, pour enchaîner Ligue 1 et Ligue des Champions, donc à un moment, il faudra faire des choix. Et c'est ça qui va porter préjudice, même sur les résultats de Ligue des Champions. Après, moi, c'est une équipe que, comme j'ai dit, je l'ai su depuis le début de saison, c'est une équipe que j'aime bien l'état d'esprit. Ils ont des bons petits éléments, Del Castillo, donc, je pense à Pereira, je pense aussi à Kamori Doumbia, à Rioc, enfin il y a plein de ils ont de la qualité quand même, c'est pas mauvais, mais oui, c'est pas un outsider qui c'est pas une équipe qui va nous choquer, je pense. Ils sont là pour le plaisir. Même le coach lui-même, il l'a dit avant le début de la compétition. Hein. On pourra pas faire pire que Marseille. Ou il avait déjà un discours comme ça, je sais plus exactement. Mais bon, après, on sait pas. C'est un match de football, ça joue, c'est 90 minutes, ils ont rien à perdre. Voilà. Bon, pour moi, tout est faisable.
Ok, merci Salson. Et je rappelle qu'il y a d'autres matchs en Champions. Hein, bon. Quelle affiche vous... Bon, je sais qu'il n'y a pas de très grosses affiches à part Arsenal-PSG quand même. Quelles sont les affiches sinon qui peuvent qui vous donnent envie de voir ces matchs-là prochainement?
Moi, le Leverkusen-Milan, il m'intéresse. Oui. J'ai envie de voir Leverkusen du coup contre une équipe habituée à la Coupe d'Europe. Après, bon, le Milan fait pas un super début de saison, mais aussi ils vont devoir rentrer dans leur compétition à un moment donné parce que première défaite face à Liverpool à domicile. Là, ils jouent à Leverkusen. Ça peut vite devenir compliqué. Donc, moi, ce match-là m'intéresse après la prestation aussi de Leverkusen à l'Allianz Arena ce week-end, qui a fait un gros match. Donc, j'ai envie de les voir confirmés et de les voir dans cette compétition.
Merci. Et toi, Lucas ?
Moi, c'est vraiment par Arsenal que j'ai envie de voir. Je trouve que c'est
toi, rien d'autre.
Le choc de ce début de cette journée. Et je suis curieux de voir ce que va faire Paris avec ses blessés. Arsenal sans Odegaard aussi. Donc, voilà.
Ok. Et toi, Salah ?
Moi, c'est Aston Villa Bayern Munich. Parce que Aston Villa, c'est, je pense qu'on ne parle pas assez d'eux. C'est ouais. Une très belle équipe.
Ils font un très
bon début de saison.
Oui, à part le match nul hier.
Franchement, c'est une équipe. Il y a de la qualité. Ça joue au ballon. Ça va vite. Et le Bayern Munich qui fait aussi un très bon début de saison. Donc ça va être une belle bataille. C'est un match un peu sous-côté, je trouve, mais auquel faut mettre un œil dessus. Quoi.
Okay. Moi, pour ma part, hein, je vais vous le dire, pour ma part quand même, je pense que le match qui me donne envie, RB Leipzig-Juventus, je pense que ça peut être un bon match. Un très bon match à regarder. RB Leipzig... Juventus qui n'ont encaissé zéro but, hein, qui ont encaissé zéro but depuis le début de saison. Hein, et Leipzig qui commence à se réveiller en vue de leur dernière performance et qui n'ont plus trop le droit à l'erreur, on peut dire ça comme ça aussi, avec leur défaite à la dernière seconde face à l'Atlético de Madrid. Mais ils avaient quand même fait une belle prestation. Et là, ils jouent contre Juventus, la Juve qui ont gagné leur premier match sans trop de difficultés, 3-0. Moi, je pense que ça peut être un match intéressant aussi, à un bon niveau. Quoi. Pour moi, il n'y a pas d'outsider ou... Voilà, pour moi, c'est assez équilibré. Et voilà pour la Ligue des Champions. On va se faire une petite virgule avant de passer à la Ligue Europa et à la Ligue Conférence en même temps. Ligue Europa, la Lazio va recevoir l'OGC Nice. L'OGC Nice qui ont été tenus en échec 1-1 face à la Real Sociedad avec un penalty loupé de Guessant, c'est bien ça hein. Mmh. Ouais. Et du coup, là, ils vont aller jouer à la Lazio. C'est pas un match facile. Qu'est-ce que t'en penses, Lucas ?
Moi, je pense que ce sera difficile pour Nice. La Lazio, ça reste une équipe qui est solide. Nice, je suis assez... je trouve que, en tout cas, le recrutement de Moukoko, c'est vraiment une bonne chose. C'est un joueur qui a fait une dernière saison difficile. Mais sur l'année d'avant, je trouvais qu'à Dortmund, pour un joueur de 18 ans, il avait montré des choses qui, moi, me bluffaient personnellement. Donc, je trouve que s'il arrive à confirmer certaines choses entrevues, ça peut être très très bon, mais là je pense en début de saison, ça sera un peu juste.
Ok, et toi Maxence ?
Plutôt d'accord, je pense que Aize est en train de mettre sa patte sur l'OGC Nice, c'est assez intéressant ce qu'il est en train de faire. Ils n'ont pas un effectif incroyable, mais c'est cohérent, ça parle le même football, c'est assez intéressant. On les avait vus au Vélodrome notamment et ils ne doivent pas perdre ce match. Pour moi, ils ont montré plus de choses que l'OM ce jour-là. Après, je pense qu'ils feront une belle saison. Mais là, clairement, la Lazio, pour moi, ça arrive trop tôt. C'est trop solide. Aller gagner là-bas, ça me paraît très difficile pour un club français. Hors PSG, Monaco, peut-être. Mais déjà, un match nul serait une belle opération pour moi.
Avec la Lazio qui réalise un beau début de saison, hein, comme vous le dites, hein, et qui se sont imposés face au Dynamo Kiev 3-0. Sans trop de difficultés, avec un Boulaïdia en super forme. Hein. On a pu voir qu'il a récidivé encore ce week-end. Oui, je pense que tout a été dit au niveau de ce match. Hein. Ça va pas être un match facile pour Nice, mais moi, je pense que Nice peuvent y arriver quand même. En tout cas, ils peuvent essayer de faire quelque chose... en tout cas, je pense qu'ils peuvent essayer de faire quelque chose de bien. Mais en tout cas, on espère. Et on va enchaîner juste après avec Lyon qui va aller jouer aux Rangers. Qu'est-ce que t'en penses, Salé ?
Ah, moi, Lyon qui se déplace en retour, pour le moment, ce qu'ils ont proposé face à, comme je dis, de leur dernier match de Ligue Europa, là, franchement, c'était pas mal. Ils ont beaucoup attaqué, et avec leur changement tactique, le nouveau visage qui monte là depuis 2-3 matchs, enfin, avant plutôt après le match de Marseille, c'est convaincant. Moi, je pense qu'ils peuvent réaliser une belle opération, ils doivent réaliser une belle opération et pour montrer leur continuité.
Attention, Rangers ont l'habitude quand même des
Oui,
compétitions
ça reste,
européennes
c'est pas une petite
et
équipe.
d'aller
Hein.
les battre là-bas, ça
C'est
peut être
pas
difficile. Hein.
simple, c'est pas
Il y a de
simple.
l'ambiance à Glasgow.
Il y a des grosses ambiances.
C'est vraiment avec le cœur, c'est un pays de foot, un peu, on peut dire ça comme ça. Hein.
Ouais, complètement.
Maxence, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Pour moi, ça sent le match galère, comme tu l'as dit. Glasgow, ça a gagné son premier match d'Europa League, en plus à Malmö. Là, ça reçoit du coup Lyon. Et pour moi, Lyon, c'est une équipe qui est. On parlait de Pierre Sage tout à l'heure, c'est une équipe qui est incoachable, en fait. Il y a des joueurs de partout, offensivement. Il a 8, 9 mecs qui peuvent prétendre à être titulaires et qui viennent en pensant qu'ils peuvent être titulaires. Du Mikotadze, du Lacazette, du Zaha, du Orban, du Fofana, du
Benrahma,
Benrama, du Cherki. Tous ces
Nouama,
mecs-là, Nouama, tous ces mecs-là,
Lacazette.
au début de la semaine, ils se disent je dois jouer, je suis titulaire, en fait. Et donc, c'est ingérable. Ça a son côté négatif. Pour moi, le seul petit côté positif, c'est que les mecs sont revanchards, on l'a vu. La semaine dernière en Europa League, il a refait confiance à Benrahma, à Cherki, il les a remis et les mecs avaient la dalle parce que c'est encore le début de saison et ils se disent qu'ils ont quelque chose à gratter. Après, dans un deuxième temps, novembre, décembre, janvier, quand les mecs vont voir qu'ils jouent jamais en Ligue 1, ils jouent jamais les gros matchs, si on les envoie juste jouer à Storm Graz ou aux Rangers, à mon avis, ça peut vite les fatiguer. Donc ça va être la problématique de Pierre Sage pour cette saison.
Après, Pierre Sage, il est tellement bon avec son effectif dans la façon dont il gère. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, il n'y a aucun joueur qui se plaint, en sachant qu'il peut avoir des blessures. Du coup, il y en a qui pourront profiter du malheur des autres. Hein, un peu, c'est le cas de le dire, en tout cas là. Mais on voit, par exemple, il a récompensé tout de suite Benrahma et Zaha juste après le match. Le match d'après, il sait qu'ils doivent le gagner impérativement, mais il titularise Benrahma et Zaha. Il ne fait pas sortir Benrahma. Benrahma joue les 90 minutes. Du coup, pour moi, c'est un vrai message quand même. C'est pour le récompenser. C'est un vrai message qu'il lui envoie en mettant Lacazette sur le banc, en titularisant Mikotadze qui a été muet depuis le début de saison en Ligue 1 avec Lyon. Qu'est-ce que tu en penses? Comment on devrait gérer ce cas de
Déjà,
situation?
comme Maxence l'a dit, je pense que l'effectif de Lyon, il est mal construit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont les mêmes profils au milieu. Il manque un autre 6 pour moi en plus de Matic, mais les autres, Veretout, comment il s'appelle?
Okay.
Ouais, c'est ça, Cacré qui sont là. Pour moi, l'effectif, il manque un vrai milieu titulaire qui aurait fait l'autorité. Et devant, comme Maxence a dit aussi, il y a trop de joueurs. Et défensivement, c'est faible par contre. Donc je pense que Pierre Sage, en fait, là, il a des occasions qu'il doit absolument saisir pour concerner son groupe sur le moyen terme. Parce que là, si les défaites s'enchaînent, qu'il n'y a pas de qualification en Coupe d'Europe et qu'il n'y a plus que le championnat à jouer à partir de janvier, ça va être très difficile de garder tout le monde concerné. Donc là, Pierre Sage, pour moi, les 2 prochains mois, il faut qu'il les gère bien. Et pour avoir vraiment un groupe qui sera prêt en découdre pour la deuxième partie de saison. Et pour moi, là, dès ce match-là, c'est un peu ce qui se joue. Il faut qu'ils se mettent à l'abri en Europe, qu'ils gardent la bonne dynamique en Ligue 1. Et là, on pourra voir de quoi l'Olympique Lyonnais est capable. Mais pour moi, l'Olympique Lyonnais, c'est une équipe qui est encore un peu malade.
Ok, merci en tout cas. Une équipe malade qui ressemble un peu à l'année dernière, hein, qui vont arracher des matchs au bout du bout, hein, même quand ils se font dominer de la tête aux pieds, ce qu'on a pu voir encore dernièrement. Et on va passer un peu à la Conference League. La Conference League, même d'autres résultats déjà en Ligue Europa, pardon. Pas trop d'affiches, un peu entre FC Porto et Manchester United. Hein. Qu'est-ce que.
C'est beau déjà. Il y a quelques
FC
années, c'était
Porto.
un quart de finale de Ligue des Champions.
Oui, c'est vrai,
C'est
FC
beau
Porto.
Porto United en Europa League.
On a un Slavia Prague Ajax aussi. Et Ferencváros contre Tottenham. Pas,
Non, c'est
ça
pas.
vous emballe pas
Va
trop
falloir
là, mais Europa,
Tottenham,
vous allez
franchement, la journée de Ligue Europa,
là.
mais pas, à part
Mais.
Porto Manchester peut-être, c'est pas, ça donne pas trop envie, quoi.
Mais
Mais bon.
Tottenham, franchement, je les ai vus ce week-end contre Manchester et ils m'ont beaucoup étonné. Ça joue beaucoup mieux. Enfin, déjà l'an
Oui.
dernier, je trouvais qu'avec Postecoglou, ça jouait bien. Mais là, la deuxième saison, je trouve que ça joue encore mieux. Tottenham, en vraie équipe, belle équipe à voir.
Après, ça a toujours été une équipe assez costaud, un peu chiante, mais qui gagne pas de titre, hein,
Mais
qui font pas les
Pochettino,
grands
c'était
rôles.
pas un beau football. Je sais pas ce que je
Oui,
veux dire. Là, franchement, contre United, j'avais vraiment, j'ai pris du plaisir à les voir,
c'est
quoi.
juste que c'est pas une équipe qui joue les gros rôles, quoi.
Non,
Mais
jamais.
c'est une
C'est
équipe
Tottenham.
qui titille toujours, tu vois,
C'est ça.
les cinquièmes places, peut-être la quatrième.
La quatrième,
c'est plus dur.
Hein. En vue,
la guerre, la quatrième
des,
en PL, hein.
Des trois monstres, c'est très, très dur. Très on va se faire une petite virgule avant de revenir sur, exactement, bah, sur le match de United ce week-end avec Erik ten Hag. Manchester United qui sont 12e après la 6e journée. Erik ten Hag est-il l'homme de la situation ? La question se pose, hein. Dernièrement, on a pu voir cet été avec, à la dernière minute, ils ont finalement fait confiance à leur coach en le laissant au poste. Et même maintenant, ils disent qu'ils ne paniquent pas trop, mais il faudrait que les résultats suivent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que Erik ten Hag mérite sa place aujourd'hui avec, avec United et mérite d'être dans un club aussi grand qu'United ? On revient dessus avec ses dernières déclarations où il dit qu'il ne peut pas jouer la Champions League avec United et qu'il ne peut pas jouer le titre de Premier League avec, avec United. Pour un club de cette ampleur, on rappelle quand même, United est le club le plus titré avec Liverpool en termes de Premier League. Est-ce que tu peux donner des déclarations de telles déclarations en étant coach de Manchester United, Maxence, pour toi ?
Non, pour moi, j'y crois plus. J'y croyais beaucoup en ten Hag quand il est arrivé, après ce qu'il avait fait aux Pays-Bas. Mais là, maintenant, on va dire que son crédit, il est épuisé. J'y crois plus. La première saison, on pouvait se dire que le temps de mettre en place, etc. Là, ça commence à faire très long et c'est de la bouillie de football. On voit jamais deux bons matchs d'affilée. Il y a quelques petits coups d'éclat parce qu'ils ont des joueurs de grande qualité. Quand une fois ils prennent leur responsabilité de temps en temps, Bruno Fernandes, Rashford, Garnacho, c'est quand même des bons joueurs. Encore cet été, ils récupèrent Zirkzee après une saison incroyable du côté de Bologne de Thiago Motta. Ils récupèrent Lini Yoro qui s'est blessé juste après. Mais ils ont un effectif qui est quand même hyper sympa et ils doivent proposer autre chose. Là, dès qu'ils jouent un adversaire un petit peu sérieux, contre Liverpool, ils ont pris une trempe 3-0. Là, pareil, contre Tottenham, il y a des circonstances de match qui font qu'avec le rouge de Bruno Fernandes assez tôt. Mais pour moi, on doit passer à autre chose. On doit arrêter le cycle ten Hag. Je ne crois pas qu'on pourra avoir de meilleures choses tant qu'il est là.
Malgré deux saisons, un titre, hein, quand même, un titre, une autre finale. Lucas, doit-on maintenir ?
Justement, moi je pense qu'on n'a pas le maintenir. Et après sa victoire en Cup, au vu de la performance, je m'étais posé la question. Mais en fait, j'ai l'impression que ça ne prend pas. Arteta, il a eu 2 ans et demi pour mettre ses idées en place à Arsenal. Et c'est que depuis l'an dernier que ça marche. Mais ten Hag, on a l'impression qu'il n'y a rien qui vient. Pourtant, il y a des gros investissements, comme Maxence l'a dit. En plus de Zirkzee, il y a quand même De Ligt et Mazraoui qui arrivent. Donc il a refait une partie de sa défense. Franchement, pour le nombre de mercato qu'ils ont fait, l'argent dépensé, ce que tu vois sur le terrain, ce n'est pas suffisant. United, c'est un club qui, au temps de Ferguson, gagnait tout le temps. Là, ce n'est pas possible.
Et on veut revenir aussi avec le cas de la gestion de Cristiano Ronaldo, même si ça fait un moment. Il a quand même eu ses trucs à crédit. Quand même. On lui a quand même fait confiance. On lui a quand même donné, ok, d'accord, t'en veux plus, on le change, il n'y a pas de problème. Sancho aussi, qui se relance très Exactement. Bien avec Chelsea, qui, avec Dortmund, qui a fait une très belle demi-saison avec Dortmund, jusqu'à ils ont joué la finale de Champions League. On se pose des questions tout de même.
Ah, mais c'est normal, enfin, je veux dire, on a l'impression que tous les joueurs qui vont à United stagnent ou régressent. Tu parlais de Cristiano, ça fait un moment quand même que l'institution United est remise en question, parce que même Di Maria, qui revient de Madrid en étant des meilleurs joueurs du monde, il fait une saison quelconque à United et il repart à Paris pour redevenir un joueur majeur au niveau du foot européen. Donc il y a un vrai problème pour moi qui est au-delà du coach, par contre. Mais c'est vrai que le cycle ten Hag, je pense qu'il faut arrêter là.
Et toi, Salson, qu'est-ce que t'en penses ?
Franchement, ten Hag, moi, son crédit, il est fini depuis un petit moment, comme depuis la saison dernière, j'ai envie de dire. Hein, parce que là. J'ai l'impression, même dans le recrutement, c'est néant. C'est Manchester United, ça fait plus peur. T'entends, tu regardes les matchs, tu sais, limite, ils vont soit perdre, soit faire match nul. Il n'y a pas de victoire. Même l'effectif, il est devenu pauvre. C'est plus l'United qu'on. Ouais, même les jeunes d'aujourd'hui, maintenant, tu leur dis United, ils se moquent d'United. Alors que nous, on a connu l'United un peu quand même. La Paul Scholes, Carrick, Ferdinand, Joko, Royal Rooney devant. Tu vois,
Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo sur le côté gauche. T'entendais ce C'est Manchester United. Maintenant, tu vois ce qui est devenu Manchester United. C'est pauvre et c'est dommage. Après, je pense qu'il faut qu'il. Et après, je ne sais pas s'ils le virent. Peut-être qu'ils n'avaient pas d'autre choix aussi. C'est ça qu'il faut se dire aussi.
Parce que là, même s'ils le virent, Ils vont qui est-ce que vous proposez sur le marché pour l'instant qui n'a pas de club?
On parlait de Zidane à un moment, mais
non, Pochettino.
Pochettino, je leur souhaite pas, franchement.
Non, franchement, je leur souhaite pas. Je préfère même que Ten Hag reste. Désolé, mais je veux dire, Manchester United, c'est très triste de les voir dans cette situation-là. Peut-être le retour de Ferguson, je sais pas. Mais non, mais blague à part, non, mais c'est. C'est triste de les voir comme ça, franchement. Et après, pour moi, la paix crédit, ils doivent changer de projet, voir autre chose. C'est tout ce qui reste à faire, quoi.
Je suis d'accord. Franchement, ce week-end, ils ont été surclassés au niveau du jeu, collectivement. C'était moche à voir pour eux.
On va revenir sur les résultats de ce week-end. Arsenal qui se sont fait peur à domicile face à Leicester, qui menait 2-0. C'était un match maîtrisé, tranquille au début. Et Leicester qui ont eu un sursaut d'orgueil et qui sont revenus à 2-2 et qui ont complètement craqué dans le temps additionnel, 4-2. On a pu voir aussi Liverpool s'imposer face aux Wolves. Un bon résultat. Liverpool notamment aussi qui ont pris la première place de l'Angleterre. Qui ont pris la première place de la Première Ligue. Et Chelsea-Brighton. Chelsea qui se sont imposés face à Brighton à domicile.
Qui reviennent un petit peu.
Oui, qui reviennent un petit peu. Qui reviennent très bien même, parce que qui reviennent un petit peu. Ils sont quand même quatrième après 6 journées. On sait que ce n'est pas rien. Ils viennent de passer devant Aston Villa, devant Newcastle, devant Brighton. C'est quand même une belle performance, je pense. Et surtout, on voulait revenir aussi sur le cas de Manchester City. Manchester City qui ont perdu Rodri dernièrement, et là, qui enchaînent un match nul face... ça fait 2 matchs nuls, hein, très poussifs contre Arsenal. Même dans le jeu, on sent qu'ils sont fatigués. On dirait que Pep Guardiola n'arrive plus à renouveler le jeu. Et là, on voit enfin, au bout du bout, on a pu voir Manchester City égaliser face à Arsenal, et là encore, tenir en échec face à Newcastle en ne proposant pas grand-chose avec un exploit individuel de Guardiola. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Manchester City peut aller chercher un 5e titre consécutif en PL, ou non, ça va être compliqué pour eux de jouer sur les 2 tableaux cette saison, Maxence?
Je les vois toujours grands favoris, mais avec un petit doute quand même. Mon doute, il n'est pas sur Arsenal, mon doute, il est sur Liverpool. Parce que Liverpool, les débuts de saison, je ne les voyais pas bien avec la suite de Jurgen Klopp à gérer. On sait que quand il y a un monument comme ça qui quitte un club, c'est toujours difficile de prendre la suite. On l'a vu avec Wenger à Arsenal... Ferguson, comme on disait à Manchester United, c'est toujours difficile de prendre la suite. Mais là, Arne Slot, ce qu'il arrive à faire, c'est très fort, je trouve. Parce qu'il a su changer quelques petites choses, mais en gardant la base solide, la base forte. Il a pas voulu, il n'est pas tombé dans le piège des nouveaux coachs qui passent après et qui se disent « moi, je vais tout changer, je vais faire à ma manière ». Il a gardé quand même sa base avec son milieu de terrain qui est hyper sympa, hyper joueur. McAllister, Gravenberch. C'est hyper, c'est très joueur.
Et pour Boslai moi, aussi.
Sur Boslai, exactement, ouais. Et avec toujours Salah qui met but sur but, Luis Diaz qui est très très fort. Pour moi, c'est eux le principal adversaire de City. Après, on le sait, comme on l'a dit tout à l'heure, la Première Ligue, ça se jouera aussi en fonction de ce qui se passe en Ligue des Champions. Pour moi, faire le doublé, ça me paraît improbable pour aucune de ces 3 équipes. Donc ce sera celle qui aura qui gérera le mieux, on va dire, les 2 compétitions.
Ok. Cheikh Kenza, bonsoir.
Bonsoir, Elag.
Comment ça va?
Je vais bien, et toi?
Ça va, super. On parlait un peu de Première Ligue. Toi, qu'est-ce que t'en penses de Manchester City dernièrement avec leur performance? Est-ce que tu penses qu'ils peuvent se renouveler avec notamment la blessure de Rodri? Et on pense aussi On a vu les performances sans Rodri qui sont très, très, très difficiles. On rappelle, hein, les 3 dernières saisons, les 3 défaites qu'ils ont eues, c'était sans Rodri. Et avec Rodri, c'est une seule défaite depuis que Rodri est là. En fait, depuis que Rodri est titulaire avec Manchester City, ils ont perdu qu'une seule fois. Et c'est-à-dire hein, la performance et le joueur que c'est. Du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi, Cheikh Kenza?
Oui, Rodri, vraiment, c'est la pièce maîtresse en fait, du puzzle. En fait. C'est lui, comme je disais, c'est lui qui dicte un peu comment le jeu doit se passer, tout ça. Il y avait De Bruyne qui avait un impact, mais depuis la saison passée, on a vu que Rodri était tellement important. Donc, dans le système de jeu de Guardiola, parce que c'est lui qui fait un peu le relais défense-attaque, c'est un peu le stabilisateur déjà, avec le rôle qu'il a pris encore. En plus, il est devenu capitaine et tout ça, vice-capitaine, donc il a pris de l'ampleur dans le vestiaire. Et à chaque fois qu'ils ont perdu, c'est quand Rodri n'était pas là. Oui, je constate que Guardiola, peut-être avec le temps, parce que là, les choses sont un peu difficiles, je l'ai dit que ce Manchester City ne fait pas peur comme il le faisait par le passé. Parce que on sent un peu que voilà, il faudrait qu'il ajuste un peu. Voilà. Les équipes ont beaucoup étudié le système de jeu de Guardiola avec voilà, son jeu de possession. Par moment, le jeu peut alterner, il peut avoir des transitions rapides et tout ça. Donc, il est beaucoup étudié par ce moment. Donc, il faudrait qu'il trouve en fait des nouvelles ressources. Mais Rodri, il est tellement important dans le dispositif de jeu. Je ne sais pas s'il pourrait trouver un autre Rodri. Mais avec le temps, ce serait possible de s'acclimater, c'est-à-dire trouver un joueur qui pourra vraiment faire l'affaire, même sans Rodri. C'est ce qui est probable à l'heure actuelle, mais je ne crois pas qu'il en aura un deuxième comme Rodri. Parce que c'est un joueur qui est unique en son genre. Comme par le passé, on avait vu des milieux réels comme Busquets et tout ça. C'est un peu le même profil, mais pas les mêmes techniques et tout. Il est unique en son genre, donc ça serait difficile pour City. Mais avec Guardiola, rien n'est impossible.
Pep Guardiola qui dit aussi Rodri est irremplaçable. Hein. On parle un peu de Nico Barella du côté de l'Inter qui pourrait arriver du côté de Manchester City, mais ce ne sont que des rumeurs. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Salson, de Manchester City et de sa suite?
Manchester City, après, comme je dis toujours, c'est pas le joueur qui fait l'équipe, mais malgré que ça reste un gros moteur de cette équipe, je pense qu'ils ont quand même des atouts. T'as quand même Gundogan, même si je pense qu'il est dans une autre phase où il n'est pas comme avant qu'il soit parti au Barça, mais ça reste quand même un joueur de qualité. T'as Kovacic, ils ont toujours un milieu de terrain assez de qualité. Et après, comment dirais-je, il y a le mercato en janvier qui va arriver, peut-être qu'ils vont récupérer un joueur, peut-être que Pep Guardiola a déjà ciblé un joueur, on ne sait pas encore. Mais je pense que c'est pas son absence, on va avoir quand même un impact sur l'équipe, mais pas un gros impact à de là à perdre tous leurs matchs ou gâcher leur saison, quoi.
Moi, je pense que quand même, c'est un danger et que ça peut leur faire perdre le titre. Parce que toi, tu parles de Barella. Pour moi, Barella, c'est pas le même profil. Donc, ça leur serait pas utile. Qu'est-ce qu'il a fait, Guardiola, pour remplacer Rodri dans ce système-là? Je crois qu'il a mis John Stones à un moment, qui jouait un petit peu 6.
Kovacic, notamment, avec
Kovacic bon aussi. Début de saison. J'allais y venir à Kovacic, mais pour moi, c'est pas le même profil. Kovacic, c'est un joueur que j'aime beaucoup depuis les années au Real. Mais pour moi, il ne pourra pas faire ce que fait Rodri, en fait. Donc je me dis, il va leur manquer un joueur, il va leur montrer cet organisateur de jeu. Et même si Haaland a l'air parti sur des bases très élevées, on voit une première ligue où il faut plus ou moins 95 points pour être champion. Je pense que Liverpool et Arsenal, parce que moi, j'estime qu'Arsenal est vraiment dangereux. Je pense que cette phase de lose qu'on a aimé leur coller aussi, elle ne sera pas éternelle. Et que là, l'équipe que Arteta monte depuis 3 ans, vraiment un montant puissant, et on l'a vu avant l'expulsion contre City, franchement en fin de première mi-temps, il commençait à leur mettre une vraie leçon. Donc je vois City avoir beaucoup de mal à conserver son titre, déjà pas que pour la blessure, hein, parce que aussi après 4 ans à être champion, il y a forcément un peu de décompression physique et mentale. Mais ouais, je pense que là c'est l'année qui va être très difficile pour City, et je ne les vois pas gagner beaucoup de titres d'ailleurs.
Bah, on voit hein, Foden qui revient doucement, voilà, Grealish qui commence à être titulaire, hein, qui était un peu laissé de côté, avec un nouveau souffle aussi, Savinho qui fait énormément de bien. Savinho,
contre Arsenal, son accélération là.
Qui fait énormément de bien avec Arsenal. Haaland dans ses registres, hein, qui continue à empiler les buts, d'ailleurs qui a égalisé le record de Cristiano Ronaldo en mettant le plus de... qui a atteint la barre des 100 buts en 105 matchs. Oui, c'est tout simplement incroyable. Et que dire de la suite? Arsenal, oui, c'est vrai qu'on leur colle toujours cette équipe de loose, mais en vue de ce qu'ils ont fait la saison passée, est-ce que c'est à défaut qu'on leur colle cette étiquette, Maxence?
Non, pour moi, ça va encore être trop juste. Après, je suis peut-être biaisé du coup par le fait qu'on a vu ce qu'ils ont fait l'année passée, mais pour moi, ça va encore être trop juste. Ils vont devoir gérer la Ligue des Champions à côté. On a vu qu'Odegaard est blessé. J'ai peur qu'ils soient dépendants de 2-3 éléments hyper importants. Et moi, je pense que ça va faire une belle saison, mais ça fera 2 ou 3.
Et toi, c'est Kenza?
Ouais, Arsenal, vraiment, ils sont dans la continuité, en fait. Comme on l'a dit, oui, c'est un peu une équipe de loose. En fait, oui, les choses sont factuelles, donc on va le dire. Parce qu'ils ont beau avoir le parcours, comme on le dit, mais à la fin, ils ne gagnent rien. Voilà, ce titre, il a attendu depuis l'épopée des Invincibles. Donc, ça commence à faire grincer du côté aussi voilà, de Londres, du côté du nord de Londres. Donc, c'est normal. Mais je crois que cet Arsenal, cette saison, ça serait la saison de la consécration. S'il ne la gagne pas cette saison, ça serait difficile qu'il la gagne après. Parce que cette saison, le Man City est fébrile. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un Man City déjà qui pourra les concurrencer comme ils les avaient ces 3 dernières saisons, ces 2 dernières saisons. Liverpool aussi, c'est une nouvelle cadence, c'est bien beau, mais ça, est-ce que dans la continuité, ça pourra aussi tenir longtemps, comme on le dit? Parce que la Première Ligue, qu'on le veuille ou pas, il y a une période qui est très importante, celle du Boxing Day. À partir
toi,
de décembre.
Toi, c'est ta journée préférée, le boxing
bah,
day.
Lui, à partir de décembre, à partir de décembre, à partir de décembre jusqu'à mi-janvier, c'est là que la chose se dessine, en fait. La plupart des champions, ils ont marqué les points là. Oui, il y a eu des exceptions.
L'an dernier, Arsenal, ils l'ont perdu plus tard. Le titre.
Oui, mais il y a eu des exceptions. Mais en base, quand tu prends l'histogramme de la Première Ligue, tu verras que la plupart des équipes, au Boxing Day, ils avaient déjà un ascendant sur les autres. Et ça, c'est important. Si Arsenal arrive à maintenir le cap jusqu'au Boxing Day, après, ça, tu peux arriver des exceptions, comme toute règle. Voilà, il n'y a jamais une règle voilà, qui se fait de façon absolue ou non. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais je vois cet Arsenal au moins aller titiller au moins City. Aller au même les bousculer, pourquoi pas ne pas prendre le titre.
Merci. Lucas ?
Non, j'avais déjà parlé sur
oui,
ce
c'était
sujet.
C'était Maxence aussi. On t'a entendu aussi dessus, oui, et Salson.
Ouais, moi, vous mettez l'étiquette de lose un peu sur Arsenal, mais ça fait 2-3 saisons que quand même, je les vois un peu plus quand même candidats sérieux. Arteta, son travail, il a pris du temps, mais il commence à avoir. Ça commence à payer. On le voit dans les résultats. Et deux saisons de suite, il rate le titre parce que City revient de je ne sais d'où. Et ça joue pas au Boxing Day, ça joue plutôt à chaque fois vers avril, mais peut-être vers les quarts, les demi, quand ils sont à peu près les deux éliminés, où là vraiment ils se concentrent sur le championnat. Et là, cette année, Arsenal a les moyens de faire quelque chose. Mais malheureusement, comme il a dit Maxence tout à l'heure, c'est Liverpool qui pour l'instant est là en tant que poison. Il ne faut pas oublier que Liverpool a aussi pris titre ces 5 dernières années, avec l'époque de Mané et Salah. Donc ils savent comment ça se passe, ils savent maintenir cette cadence, ils pourront la tenir parce qu'ils ont les joueurs, ils ont les joueurs qui ont l'expérience un peu, ils ont pas mal déjà dans l'effectif. Donc après, à voir. C'est un championnat déjà où il y a beaucoup de suspense, il y a toujours eu du suspense et ça va être agréable à voir. Et je pense que celui qui gagnera le championnat au final, il le méritera vraiment et réellement.
Bah, généralement, en Première Ligue, celui qui gagne le championnat, il le mérite. Hein. Sauf le mano à mano de Manchester City et Liverpool qui s'est joué jusqu'à la dernière seconde. Aston Villa qui menait 2-0 face à Manchester City. Liverpool qui perdait face à Wolverhampton. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Je vivais le moment au plus profond. C'était palpitant. Salah qui marque, qui donne l'avantage. Et c'est un supporter qui lui dit, et il vient célébrer. Et le supporter lui dit, ils sont à 3-2 Manchester City. Et là, il se dit,
on peut rien faire.
On peut plus rien faire. Du coup, c'est très très beau. Et avec Kevin De Bruyne aussi blessé côté Manchester City, Kylian Mbappé qui se blesse du côté du Real Madrid, beaucoup de blessures. Est-ce que le calendrier n'est pas surchargé pour ces joueurs-là? En plus, Rodri en avait parlé quelques temps avant. On va se faire une petite virgule avant de revenir sur ce point-là. Voilà, comme on disait, hein, Rodri en parlait et il disait on peut tenir et faire de belles performances sur 40-50 matchs, mais au bout d'un moment, les joueurs vont se mettre en grève parce qu'on ne nous demande pas notre avis et ça devient très compliqué parce qu'on n'a pas de vie, déjà. Quand c'est les vacances, bah, on a des matchs maintenant, des compétitions un peu bidons, qu'ils appellent un peu bidons, avec des Ligues des Nations, des...
Ou la nouvelle Coupe du Monde des Clubs aussi.
Ou la nouvelle Coupe du Monde des Clubs. Qu'est-ce que t'en penses chez Kenza, toi?
Ouais, moi, concernant ça, je crois que voilà, les athlètes sont pas consultés pour l'élaboration des calendriers, tout ça et tout. Parce qu'on a vu un peu que genre, le football, maintenant, c'est devenu du business. C'est-à-dire, voilà, ils n'en ont pas besoin du spectacle. Parce que depuis quelques années, on remarque qu'il y a peu vraiment de spectacles dans le football. On a peu d'artistes, on a plutôt des athlètes. Pourtant, à l'époque, on avait des artistes. Voilà, qui savait manier le ballon, qui savait donner du plaisir et tout ça. Parce que vraiment, ils ont un peu transcendé le football. Ils en ont fait des entreprises à fin personnel et tout ça, un peu comme la FIFA, l'UEFA. Et il y a pas mal de gens qui se sont plaints. Même le président de la CAF, Patrice Motsepe, qui s'est plaint, qui a dit que vraiment, voilà, que les joueurs aussi, ils doivent être consultés. Parce qu'ils ont des calendriers vraiment hyper chargés, même si vraiment ils sont payés pour. Mais à un moment donné, c'est des hommes aussi, c'est des mucs, c'est des trucs qui peuvent lâcher. Psychologiquement, à un moment donné, ben, Rodri en avait parlé, donc il avait au moins préparé cette blessure. Il savait qu'à un moment donné, son corps allait lâcher. Donc, et là, on le constate qu'en début de saison, les joueurs se blessent beaucoup, chose qu'auparavant, on n'en avait pas. C'était le plus souvent à la mi-saison, fin de saison, que les mix lâchaient, mais là, on constate qu'avec le calendrier qui n'est pas apte, je crois que les joueurs doivent monter au créneau s'il le faut. Pourquoi pas entamer une grève, parce que c'est des choses qu'ils avaient prévues. Je crois qu'on n'en a pas pour longtemps encore. Les joueurs, vraiment, ils vont prendre les choses en main.
Ok, merci. Et toi, Maxence, qu'est-ce que tu en penses de ce calendrier de ces équipes?
Je pense aussi que le calendrier, il est problématique.
Mais tout d'abord, je pense que au-delà des grands, grands clubs, c'est les clubs médians qui vont être touchés aussi. Comme on parlait de Brest tout à l'heure, de Lille, les clubs qui n'ont pas les effectifs pour jouer sur tous les tableaux. Et eux, ils vont être en grande difficulté parce que quand tu as 14, 15 joueurs de haut niveau et que tu joues tous les 3 jours, c'est très, très, très compliqué. Et eux, ils peuvent en pâtir au niveau des résultats déjà, en plus des blessures. Les clubs comme City, Chelsea, le Real, etc., certes, ils vont en pâtir, les individus vont en pâtir, les joueurs risquent la blessure. Mais au niveau du club, ils ont 20, 22, 25 joueurs. On voit les Anglais, ils se créent des super teams avec 2, 3 joueurs par poste. Et ils peuvent se permettre de faire tourner, d'avoir un blessé, d'en avoir 2. Et c'est aussi pour ça qu'ils acceptent ces nouvelles compétitions, parce qu'ils savent que s'il y a la Coupe du Monde des clubs en fin de saison et qu'il faut recruter 8 nouveaux joueurs en septembre, ils le feront. Et ça ne pose pas de problème. Moi, c'est plus les clubs moyens qui m'inquiètent, on va dire. Les clubs de deuxième chapeau européen, comme on peut mettre Lille, on peut mettre le Sporting, on peut mettre ce genre de clubs-là qui, eux, pour le coup, vont être en vraie difficulté.
Et toi, Lucas, qu'est-ce que t'en penses avec, parce que c'est vrai que s'il y a plus de matchs, il y a plus de spectacles d'après la FIFA. Il y a plus de spectacles d'après la FIFA. Mm-hmm. Et ça fait plus d'argent. Ça, c'est sûr.
Ça, voilà. C'est sûr. Plus du de coup, matchs, plus de rentrées, plus de revenus publicitaires, télé, stade, c'est sûr. Moi, je rejoins à 100% ce qu'a dit Chekenza. Ça veut dire que là, on est plus sur l'aspect business du foot et pas du tout sur le spectacle en soi. Parce qu'en vrai, un joueur, il arrivera mieux à donner la pleine mesure de son talent s'il fait 45 matchs que s'il en fait 70. Mmh. Et je trouve que là, on est dans une ère qui est carrément dangereuse pour les joueurs. Je m'explique. Depuis des années, on a un modèle du football avec une année. Les joueurs jouent leur championnat, la Ligue des Champions qui est rallongée maintenant. Et après l'été, une année sur deux, ils ont Coupe du Monde ou compétition continentale. Et une année sur deux, ils se reposent. Ça, c'est fini. Il y a la Coupe du Monde des clubs qui est arrivée. Il y a la Ligue des Nations avec des matchs, plus de matchs amicaux, des matchs qui sont tout le temps la compétition. En fait, les joueurs, ils ont surcharge de compétition. Ils ont surcharge de matchs en charge physique. Et je trouve que on peut aller que vers un spectacle qui sera de qualité moindre. Et j'ajouterais aussi que ce qu'on dit là, ça concerne en fait une minorité de joueurs, parce que 80% des joueurs ils jouent le championnat et c'est tout, mais les joueurs qui jouent la Ligue des Champions et qui sont internationaux, qui sont en fait la vitrine du football, qui sont les raisons pour lesquelles on va au stade et qu'on paye en fait, et bah ça non, ces joueurs là ils vont vraiment souffrir. Et on voit avec Rodri, et moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu as dit à la fin, c'est que c'est la première année qu'on voit des joueurs qui se blessaient aussitôt. L'an dernier, rappelle-toi, dès septembre il y avait des cascades de blessures. Je me rappelle notamment de Justin Timber à Arsenal qui se pète au bout de 2 journées. On avait plein de nouveaux joueurs qui arrivent dans un championnat et qui se blessent, et en fait c'est un phénomène qui est exponentiel. Et moi je pense que c'est un problème qui va prendre de l'ampleur. Ils ne peuvent pas, c'est pas des robots, même s'ils sont très bien payés, c'est des êtres humains, il faut qu'ils puissent se reposer physiquement, mentalement. Et je pense qu'on va juste vers un appauvrissement général du football avec ce modèle-là. Voilà.
Merci. Salsam.
Après, je vous entends parler. Vous dites que... Bon, moi, personnellement, déjà, dans un premier temps, le football, je crois que depuis l'après-Covid, il a un peu... le niveau du football, c'est un peu baissé, même beaucoup. La qualité des matchs, elle est plus comme avant. On n'a pas les bons matchs. On a de moins en moins, en tout cas. Et là, on est en train de rajouter énormément de matchs, c'est-à-dire que les joueurs, ils devront choisir limite leurs matchs. Ils ne vont pas être bons sur tous les matchs, ce n'est pas possible. C'est niveau physique. Et là, vous dites aussi que là, tu dis qu'aussi après qu'il y a pas mal de blessures en ce moment. Après, ça, c'est comme ça chaque année. C'est la préparation. Tu vois, après la préparation, tu as de la fatigue. Tu as des joueurs qui se pètent plus facilement que d'autres. Il y a ça aussi qui joue beaucoup. Après, enchaîner les matchs, on va avoir moins de qualité et plus de blessures, ça c'est logique, ça reste logique. Après, s'ils vont leur faire du business, qu'ils en fassent du business, mais ils sont en train de nous gâcher le spectacle. Et je pense que plus les années vont arriver, plus, bah, comme tu l'as dit, Lucas, on arrive à un football qui sera pauvre.
Enfin, juste pour finir, il y a quand même un truc, c'est que je crois que c'est leur boulot hier qu'ils étaient dans le CFC, que Jonathan David, c'est 2 jours de vacances cet été. Tu imagines, c'est peut-être pour ça qu'il est malade, il vient de mettre un triplé ce week-end, c'est super. Ouais. Mais si son année est difficile alors que c'est un vrai bon attaquant, c'est peut-être parce qu'il ne s'est pas assez reposé, qu'il a fallu du temps pour se remettre. Voilà.
Oui, on a pu voir notamment des joueurs dire « Oui, c'est bien, on gagne des salaires formidables, mais on n'a même pas le temps de les dépenser, on n'a même pas le temps de profiter avec notre famille parce que on est surchargé en termes de travail. » Et voilà.
Après, le problème, c'est qu'on dit que c'est un business. C'est vrai que c'est un business pour les clubs, pour les sponsors, pour l'UEFA, pour la FIFA. C'est un business aussi pour les joueurs. Faut pas oublier. Et est-ce que les joueurs qui ont des convictions, j'en suis persuadé,
Est-ce qu'il serait prêt à dire, ben moi, la Coupe du Monde des clubs, vous m'oubliez. La Ligue des Champions Nouvelle Formule, vous m'oubliez. Par contre, le sponsor qui donne tant d'argent, le match de prépa au bout du monde au mois de juillet, je le fais pas non plus. Et je rogne, on va dire, 20% de mon salaire, 30%, mais je joue telle compète. Est-ce qu'il serait prêt à faire ça, les mecs, en disant je joue que 40 matchs, mais je rogne mon salaire plutôt que je veux toujours en avoir plus et rentrer dans un engrenage de je gagne toujours plus et je fais toujours plus de matchs et je deviens une bête de foire un peu.
Je pense pas que tous les footballeurs soient contre le fait de donner un peu de leur salaire pour avoir moins de matchs. Hein. Ça, si tu leur poses la question, tu les consultes, je pense pas que tout le monde serait contre. Hein. Parce que quand tu passes surtout de 45 matchs à 70 matchs, c'est énorme. Je veux des matchs. En plus, il ne faut pas oublier que le football, on croit qu'on court derrière un ballon, mais ça reste quand même un sport physique, très physique et très dangereux pour le corps. C'est ce que tu utilises pas mal d'éléments du corps. Donc ça veut dire, au bout d'un moment, quand ça craque, ça craque.
Mais c'est un sport aussi dans lequel il n'y a pas que les jambes qu'on utilise, en fait. Le football aussi, on réfléchit beaucoup. Donc ça demande aussi, ça demande aussi beaucoup de lucidité et tout ça. Donc c'est un jeu, en fait, c'est un sport plutôt dans lequel on utilise toutes les parties du corps, que ce soit les yeux, les bras, les pieds, la tête et tout ça. Donc, à un moment donné, il faut stop. Même tu l'as dit que ça va dépendre des joueurs de conviction. Là, on a constaté qu'il y a plusieurs joueurs, vraiment. Il y a plusieurs joueurs qui en parlent. Ça fait 2 saisons, Virgil van Dijk, il en parle. C'est pas maintenant que lui, il en parle. Et là, il y a Jules Koundé qui en a parlé récemment.
Bruno Genesio aussi.
Non. Voilà, donc à un moment donné, c'est-à-dire que même il y a un président d'une confédération, d'une institution de la FIFA, qui en a parlé de ce souci. Donc, ça montre qu'à un moment donné, ça devient un souci récurrent. Et plus le souci devient récurrent, ben, il faut trouver une solution. Et la solution, c'est laquelle? C'est de prendre des décisions pragmatiques en disant à un moment donné à la FIFA qui est derrière toute cette magouille. Parce que oui, parce que qu'on le veuille ou pas, il veut faire du football le sport phare du monde. Ça, il l'est déjà. Mais pas besoin, en fait, de mettre en fait, le maximum de matchs possibles, voilà, pour qu'on n'ait plus le spectacle. Et à un moment donné, les supporters, je sais que dans 5 ans, 10 ans, les supporters, ben, ils vont parler. Parce qu'on remarque que maintenant, on n'a plus d'artistes. C'est-à-dire qu'on n'a plus de joueurs vraiment qui pourraient faire des spectacles et tout ça. Des sombreros, le football, il est devenu...
aseptisé.
Voilà, où il faut que marquer des buts. Mais ce n'est pas ça, le football. Le football aussi, on avait besoin de voir des beaux tacles, des gestes défensifs, des gestes offensifs. Vous faites le football, c'est que pour le spectacle d'abord.
Il n'y a pas que le but.
Les buts sont faits pour la gagne, parce que oui, après, on veut gagner des trophées et tout. Mais le spectacle, si tu vois que les gens viennent au stade, c'est pour voir du spectacle aussi.
Bien sûr, bien sûr. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Et puis, moi, je pense que les joueurs parlent, etc. C'est une bonne première étape. Mais il va falloir que les joueurs agissent. Il va falloir qu'il y ait une grève. Il va falloir qu'ils se disent, cette journée de Ligue des Champions, on ne la joue pas. Que les grandes stars se disent, s'il y a déjà 5, 6, 7 joueurs qui s'y mettent, si c'est Mbappé, Haaland, les plus...
Vinicius, Van Dijk et compagnie,
ils se mettent à 7-8 à dire ce match-là, on ne joue pas, ou cette compète, la Coupe du Monde des clubs, là, on ne la joue pas, on n'y va pas. Déjà, elle perd tout son sens, la compète, pour les sponsors, etc. Ce ne sera plus du tout la même chose.
Moi, ce que je voudrais dire, c'est quand même, c'est pas qu'un problème individuel. Je veux dire, on ne va pas demander à des joueurs, fais pas ce match-là et tu perdras de l'argent. C'est aussi aux fédérations, franchement, de se mouiller. Les fédérations, notamment en France, elles se mouillent jamais. Et ils peuvent dire, nos joueurs, ils sont en danger, ils jouent trop de matchs. Et bien, la Ligue des Nations, par exemple, on la boycotte parce qu'elle ne sert à rien et qu'elle intéresse très peu de monde. C'est des choses qui sont possibles à faire. Et on voit qu'en fait, les instances... Toutes les instances dirigeantes, en fait, ils considèrent pour moi les joueurs comme du bétail. Jouez, faites rentrer de l'argent. Et en fait, le spectacle, ils s'en fichent. Le bien-être des joueurs, ils s'en fichent. Et l'avenir, entre guillemets, du foot, c'est pas leur problème non plus. Donc, on va vers un produit qui est de mieux en mieux marketé, et avec de plus en plus de matchs. Mais en soi, les matchs, même pour nous, ils ont moins de...
Ils ont moins de saveur.
Ils ont moins de saveur. Et pourquoi? Parce qu'en fait, un euro à 32, c'est pas un euro à 16. Euro à 16, tu te rends compte qu'à l'époque, ou même à 8, tu jouais des matchs, imagine ta poule avec que 8 clubs, ça veut dire que tu as Italie, France, Espagne, Portugal, tu vois. Tous les matchs, c'est des boucheries, et quand tu arrives en demi-finale, puis en finale, c'est pas la même saveur, tu vois. Là, on a des troisièmes repêchés et tout, ça veut dire qu'il y a plus de matchs, mais ils n'ont pas autant de...
Moins de suspense.
Ouais, il y a moins de suspense, tu as moins d'enjeux et tout. Là, avant, dès les poules, à l'Euro à 16, on disait que c'était la meilleure compétition du monde et tout, parce que tu n'avais que des grosses équipes, et... Tous les matchs, en fait, ils sont disputés parce que tout le monde a une carte à jouer. Alors que là, maintenant, il y a des choses qui devraient être réglées en qualification.
Est-ce qu'avec ce nouveau format aussi, on n'a pas donné une chance aux petites équipes qui n'ont pas la bûcher d'aller à l'Euro aussi, de leur donner cette chance-là?
Mais tu vois, la Grèce, ils l'ont gagné en 2004, c'était une petite équipe. En 16, là, en 32, on n'a même pas de surprise. Au final, c'est plus les gros qui peuvent faire un faux pas et qui vont se rattraper par ailleurs.
C'est ça, c'est
comme le Portugal en 2016.
Comme la Ligue des Champions.
Non, je suis tout à fait d'accord. Exactement ça.
Et aujourd'hui, si je te parle d'un match de l'Euro qui était il y a 4-5 mois, Je suis sûr que on n'en a tous aucun souvenir autour de la table ou alors des bribes.
Moi, je me rappelle que des Géorgie-Turquie.
On se souvient plus des
gestes vraiment techniques ou des choses en fait.
Non, mais le football.
Que, voilà, plus, c'est-à-dire que plus les années passent, plus le football vraiment devient déplaisant à voir. Plus les années passent, plus on est un peu dessus vraiment du rendement aussi des joueurs. Mais on ne peut pas les remettre en cause parce que vraiment, à un moment donné, ils ne peuvent pas jouer 70 à 72 matchs par année. Et avoir les mêmes rendements que ceux qui jouaient 40 à 50 matchs.
Avec
c'est pas
l'intensité
pareil.
De maintenant en plus. Oui, l'intensité c'est pas des pareil, matchs en fait. Maintenant. C'est
là
pas
maintenant, le football est devenu plus statique, c'est plus des organisations. Donc...
Merci, Cheikh Kenza. Merci à vous pour ce petit débat freestyle. Hein. C'était un peu libre. On va passer au cas Griezmann, la petite bombe de ce matin, avec une petite virgule et on arrive tout de suite. Griezmann qui a annoncé sa retraite sur les réseaux, voilà, qui n'a pas prévenu grand monde, apparemment, à part sa sœur, sa femme et Didier Deschamps ce matin. On va écouter ce qu'il nous a dit ce matin.
Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège. Depuis mars 2014 et jusqu'à septembre dernier, j'ai eu la chance de vivre des moments incroyables aux côtés de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront gravées à jamais dans nos mémoires. Alors merci pour ces précieux souvenirs que nous avons créés ensemble. Je tiens également à remercier les supporters qui ont toujours été là. Dans les moments de joie comme dans ceux de doute. Votre passion, votre ferveur et votre fidélité ont été une vraie source d'énergie pour moi. Un immense merci également au staff de l'équipe de France et à toutes les personnes qui ont travaillé dans l'ombre, à Clairefontaine et en déplacement. Et enfin, merci à mon coach. Votre confiance et votre accompagnement tout au long de ma carrière internationale ont été essentiels à mon développement en tant que sportif. Je quitte l'équipe de France avec un profond sentiment de fierté et de gratitude. J'ai eu l'honneur de représenter notre pays et la chance de vivre des moments extraordinaires comme celui de devenir champion du monde. Je continuerai à suivre les Bleus avec passion et à soutenir cette équipe qui m'a tant donné. Je suis convaincu que l'avenir est prometteur et j'ai hâte de voir la prochaine génération briller. Un grand merci à vous tous pour votre amour et votre soutien. À bientôt, Antoine.
Voilà, j'ai envie de dire à quel point je suis fier d'être français.
On est aussi fier d'être français. C'était Antoine Griezmann dans son message d'adieu de l'équipe de France. Un message assez solennel un peu dans sa façon de s'exprimer. Ça se voit que ça a été travaillé. On ressort maintenant des anciennes vidéos où quand il a fait son dernier match là face à la Belgique, il me semble, il a fait un tour de stade où il a salué un peu les joueurs. Je pense qu'il savait déjà à ce moment-là. Et il savait déjà à ce moment-là. Qu'est-ce que vous en pensez? 33 ans, une retraite internationale. Sur le ton dont il est parti, Antoine Griezmann. Maxence, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, j'ai un goût amer par rapport au départ de Griezmann de l'équipe de France. J'ai l'impression que c'est par défaut. En fait, j'ai l'impression que lui aurait voulu continuer, aurait voulu avoir une place centrale dans cette équipe. Et le virage, il a eu lieu post-Lloris, post-Coupe du Monde, quand il y a le choix du capitana. Pour moi, ça aurait dû être lui. C'était le sens de l'histoire que ce soit lui, après 2014, après 2016, 2018. C'est lui qui a porté l'équipe sur ces années-là. Et c'était son moment. Le moment de Mbappé, il serait arrivé plus tard. Il serait arrivé après les États-Unis, par exemple. Et Griezmann, on sait qu'il avait à cœur de terminer aux États-Unis. En plus, c'est un pays qui lui est cher. Ça avait du sens. Donc pour moi, c'est un choix par défaut et la sortie, elle est par la petite porte sur un match bidon entre deux rassemblements septembre-octobre dont on se fout clairement. Donc je suis assez déçu et c'est pas à la hauteur du c'est pas que de sa faute, hein, pas du tout de sa faute même, mais c'est pas à la hauteur du joueur et des émotions qu'il nous a procuré ces dernières années. Pour moi, c'est top 5 des joueurs de l'histoire de l'équipe de France, si ce n'est pas top 3. Mais c'est dans cette catégorie-là.
On a eu ce débat un peu houleux, même dans le groupe, où il y en a qui le mettaient dans le top 3 avec Platini et Zizou.
Non. J'ai fait un peu, mais en fait, je demandais vraiment, ils avaient bu quoi ce matin, ils avaient pris quel café. Oui, ils s'étaient levés de quel pied, mais vraiment, mettre Griezmann dans le top 3, c'est un peu en fait, je sais pas comment
dire. C'est quoi ton top 3?
Voilà, c'est un peu aller en délire en fait.
C'est qui ton top 3?
Moi, mon top 3, d'abord, je mettrais Platini. Ouais. Ensuite, je mettrais Zidane. Okay. Après, je mettrais Thierry Henry. Parce que ces trois joueurs,
tu n'as jamais porté l'équipe de France tout seul. Hein.
T'es vraiment sérieux, j'ai
98-2000, il fait une très bonne compétition.
98, il est remplaçant Thierry Henry.
Oui, mais arrêtez quand même.
Que en 2000 où il est super fort.
C'est un adjoint.
On parle pas de statistiques.
Quand même, même en 2006, en 2006, c'est pas en 2006, c'est pas parce qu'il gagne pas. Mais en 2006, même si la France gagne pas,
il fait pas un super tournoi.
Il met deux buts en poule et marque en quart, ce qui est super important. Mais
Griezmann porte toute l'équipe en 2016, 2018, c'est lui aussi. Il est là sur tous les matchs. Il est là sur tous les matchs. C'est le lien,
ce qu'il a apporté à l'équipe de France. Franchement,
moi je mettrais pas un Griezmann. Après, chacun son avis.
Oui, chacun son avis. Ça n'est pas la question pour l'instant. Excuse-moi, Cheikh Kenza, de t'interrompre. Ça n'est pas la question de toute façon. Hein. Le top 3, vous nous le donnerez peut-être en fin, en fin d'émission si ça intéresse sûrement nos chers auditeurs et auditrices. Mais là, la question, c'est sa retraite à 33 ans. Voilà, Maxence a donné son point de vue. C'est un peu un goût amer, la façon dont il s'en va. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Cheikh Kenza?
Ouais, je vais le rejoindre un peu sur ses idées, mais je ne suis pas totalement d'accord. Parce que je crois que le capitaine en a joué aussi beaucoup. Parce qu'à un moment donné, Mbappé, il venait d'arriver. Il y avait déjà des cadres de vestiaire. Il y avait Hugo qui était le capitaine. Ensuite, il y avait Varane qui était le vice-capitaine. Après, on avait Griezmann en troisième. Donc du coup, par moment, Griezmann portait même le brassard. Je n'ai pas compris les choix de Didier Deschamps. Lui seul peut nous donner des questions déjà. Parce qu'on avait pour l'habitude de voir une équipe de France, c'est l'ancienneté qui faisait le capitanat. Donc après, ça peut être aussi une hypothèse, mais je crois qu'il a vu vraiment que ce groupe en fin de cycle, étant donné que c'est quelqu'un d'observateur, visionnaire, il a vu que ce groupe en fin de cycle et il n'aimerait pas sortir vraiment par la petite porte. Après tout ce qu'il a donné, tout le bonheur qu'il a apporté aux Français, il s'est vu vraiment qu'il ne devait pas sortir par cette petite porte-là. Donc il devait vraiment sortir par une grande porte de façon grandiose. Et c'était le moment pour lui, il en a réfléchi, il a vu que oui, c'était le moment approprié pour prendre sa retraite. Après qu'il a déjà gagné la Coupe du Monde, puis une défaite en Euro, puis le dernier Euro aussi, ça peut jouer aussi, parce que voilà, le dernier Euro, c'est un peu comme si une fin, voilà, finale de Coupe du Monde, demi-finale. Donc après, il a vu vraiment qu'ils étaient plus sur une pente, voilà, ils étaient
descente,
plus,
oui, voilà, sur, que, plus voilà, sur une montée.
Donc il s'est dit que c'est le bon moment vraiment de raccrocher le cran pour une équipe de France. Pourquoi pas se concentrer sur sa carrière vraiment un club et comme les autres l'ont fait, parce que mine de rien, ses anciens coéquipiers ont pris leur retraite, donc il s'est dit que c'était le moment pour lui. Je crois que moi, je ne souhaite que du bonheur. En tout cas, c'est un joueur qui mérite beaucoup de respect.
Voilà. Oui, c'est sûr qu'il mérite beaucoup de respect, Antoine Griezmann. Hein. Antoine Griezmann qu'on affectionne beaucoup, qui dernièrement a beaucoup été décrié aussi. Ça joue aussi sur son mental. On sait que Griezmann est très touché, en tout cas par les déclarations des Français et de ce qui se dit sur lui. Même si c'est le chouchou du coach, il a quand même été remplaçant dernièrement avec des choix difficiles où il le faisait sortir. Il l'a remis en doute plusieurs fois. Du coup, oui, c'est sûr que ça laisse un petit goût amer. Toi, Salson, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je suis triste un petit peu. Hein. Ça reste quand même les 10 dernières années, c'est grisou. Là, il a enchaîné, je ne sais combien de matchs d'affilée. Plus de 88. 80. Plus de 88.
88. C'est énorme. Depuis 1966.
137 sélections, quarantaine de buts. On est en milieu de terrain. Faut voir. Juste sur ces statistiques, tu comprends son impact sur l'équipe de France sur les 10 dernières années. Et qu'il parte comme ça. Comme il a dit Maxos, pour moi, il part par la petite porte. Et en plus, tu vois, on apprend ça comme ça, en plein milieu, fin début octobre, fin septembre, comme ça. Et j'aurais bien aimé que ça se sache bien avant le rassemblement pour qu'au moins...
Soit à la fin de l'Euro.
Soit à la fin de l'Euro, tu vois, ouais. Qu'il aura un hommage au moins, parce qu'il le mérite. Et pour moi, il reste...
Je pense qu'ils organiseront un hommage, oui, mais ça serait pas la même chose.
Mais c'est dommage, tu vois. C'est-à-dire, il a fait son dernier match en Belgique, on ne savait même pas. Là, on le sait un mois après. Et franchement, je suis triste, c'est triste. Et je pense qu'il aurait pu même faire encore plus... Il aura pu continuer encore parce qu'il le montre encore avec la société, avec l'Atlético Madrid, ouais. Pardon, qu'il a clairement le niveau. Après, je ne sais pas, moi je pense que c'est plus Deschamps qui l'a poussé vers la sortie, je ne sais pas, Mbappé, je ne sais pas, c'est juste des suppositions. Maintenant, moi je pense encore une fois, comme il a dit Maxence, il est sorti par la porte, petite porte et par défaut, et surtout par défaut. Ça, ce n'était pas voulu de sa part.
Est-ce que vous croyez que Didier Deschamps l'a vraiment poussé par la petite porte et peut-être même qu'ils ont eu une discussion, on ne sait pas, hein, là on est vraiment dans la fantaisie un peu, où il peut lui dire « je ne te sélectionnerai pas le 3 octobre ». ça aussi, ça peut, enfin là, dans les, dans, parce qu'il y a des prochaines séances qui vont arriver, en sachant que Nkunku performe de l'autre côté, lui, en ce qu'il fait dernièrement, est-ce qu'il aurait pu lui dire « je ne vais pas te sélectionner dernièrement » et que ça a pu faire cogiter ? Je ne sais pas, je ne sais pas, peut-être qu'on aura quelques révélations dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Lucas ?
Moi, je ne crois pas du tout à cette hypothèse, honnêtement. Moi, il y a plusieurs choses que j'ai retenues déjà en l'écoutant, sa petite poésie qui récite très bien la Griezmann. C'est que déjà, j'ai réalisé en fait qu'il avait connu que Deschamps comme coach de l'équipe de France. Et en fait, je regrette un petit peu qu'il ait connu que Deschamps. Tu vois, j'aurais aimé voir ce que donne Griezmann avec plus de responsabilité offensive, où on laisserait plus de liberté à sa créativité. J'aurais aimé voir ça. Donc, 10 ans avec Deschamps. Et je pense que le rapport de confiance, il s'est détérioré, comme on l'a dit, suite à l'Euro, le capitaine, etc. Mais je ne vois pas Deschamps aller jusqu'à arrêter de le sélectionner. Notamment parce qu'il n'a pas de joueur créatif et que si Nkunku se reblesse comme ça lui arrive souvent, on en a parlé beaucoup pendant l'Euro, quel joueur créatif mettre en équipe de France, parce qu'on a beaucoup de joueurs stéréotypés, on le disait, c'est un peu le là vers où va le foot, mais en France particulièrement la formation, on a beaucoup d'athlètes et on a de moins en moins de joueurs créatifs comme Griezmann peut l'être, qui est formé en Espagne d'ailleurs, c'est pas un hasard. Et donc voilà, moi, comment Deschamps va le remplacer? Donc je vois pas du tout Deschamps lui dire qu'il ne veut plus sélectionner. Peut-être qu'il aura remis en cause sa place de titulaire, ça a son importance dans le groupe, mais lui dire « je ne te sélectionne pas », sachant le manque qu'il y a dans son profil, je ne vois pas du tout Deschamps faire ça.
Merci Lucas. Maxence, oui,
oui, après je pense que Griezmann ne voulait pas être utilisé comme roue de secours, comme on avait pu le voir sur les derniers rassemblements, en rentrant un petit peu à droite, un petit peu dans l'axe, en rentrant pas du tout, en étant titulaire, étant remplaçant. Il voulait pas être non plus un poids pour l'équipe, et ça c'est tout à son honneur de vouloir laisser une bonne image. Mais après on se demandait sur qui Deschamps allait jeter son dévolu, on va dire, pour être le créatif de l'équipe. Je pense que Deschamps, il ne veut pas de créatif dans l'équipe. Et c'est bien le problème. Il nous fera un petit milieu à trois, Tchouaméni, Rabiot et Kanté, ou Tchouaméni, Rabiot, Zahir Emery, un truc comme ça.
Kamavinga.
Avec Kamavinga. Ah, il joue un peu trop au ballon, Kamavinga. Ça va être chaud pour avoir une place dans l'équipe de Deschamps. Et devant, trois mecs qui vont vite. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. Hein. Ça donnera pas du grand
Michael
football.
Michael Olise a l'air d'être dans ses plans, et ça joue un peu au foot.
Ouais, ça joue aussi. Coucou. Je dis peut-être que j'anticipe pour la Coupe du Monde de 2026 aussi. Voilà.
Mais cette équipe, vraiment, je ne crois pas que trop qu'elle aura de la gueule, parce qu'il manque vraiment quelqu'un de créatif, si vraiment il en trouve. Mais moi, je crois que le système Deschamps, maintenant, c'est bon. Voilà, il faudrait qu'on passe à autre chose, parce qu'il en a tant donné qu'à un moment donné, il faudrait qu'il prenne du recul aussi. Mais je ne vois pas s'il lui voit les choses comme ça, parce que voilà, plus l'équipe de France avance, plus on regarde les matchs, il n'y a rien de séduisant, c'est que des systèmes tactiques. Voilà, on a même vu avec le dernier héros, vraiment, on gagne des matchs, voilà, en galérant tout le match, en défendant, mais c'est pas ce qu'on avait l'habitude de voir. On avait l'habitude de voir des équipes joueuses et tout ça. Donc à un moment donné, je sais pas vraiment le contrat c'est lequel avec la Fédération Française de Football, mais il est temps que voilà, que Deschamps laisse tomber le plancher, voilà, qu'il donne la place à quelqu'un d'autre.
Zidane.
Ouais, sinon on perdra vraiment tous nos joueurs. Ah oui, c'est les choses qui vont arriver.
Akliouch, il peut avoir le même profil. On a mis un très beau but en Ligue des Champions la semaine dernière. Oh, Magnus Akliouch.
Je le vois plus ailier.
Je me dis que si t'as vraiment Olise à droite, tu vois, ouais, Akliouch dans ce rôle un petit peu. Ouais,
j'aime beaucoup Akliouch, mais de là à ce que Deschamps lui fasse confiance.
Non, bien sûr, évidemment. Je parle
prospections. Après, de toute façon, on est riche.
Je pense qu'on pourrait même espérer le retour de Benzema à la place de Akliouch.
Il n'aurait juste jamais dû partir.
Non, Benzema, il ne reviendra plus.
Non, oui, non, je disais ça pour
rigoler. Ça, c'est vrai.
Vraiment dans la fantaisie. On est vraiment dans la fantaisie là. Mais. Moi, voilà, je vous avoue, hein, Griezmann, j'ai commenté ses matchs à l'Euro 2022, on sait, même à la Coupe du Monde 2022, à l'Euro aussi. Griezmann, c'est vraiment un monument avec l'équipe de France, on peut le dire comme ça, et il fait partie de ces légendes de l'équipe de France. Mais maintenant, est-ce que, à votre avis, Didier Deschamps aurait dû le retenir et de lui dire de rester? Un joueur qui veut partir Oui, mais peut-être que même quand il annonce qu'il veut partir, peut-être que sa décision n'est pas prise. Peut-être que c'est en fonction de ce qui va lui être dit aussi. Parce que c'est vrai qu'il a été déçu ces derniers moments. Moi, je pense qu'il faut un Antoine Griezmann heureux pour le voir performant. Et ces derniers mois, il n'était plus heureux, surtout avec le fait du capitana dernièrement. Du coup, quelle aurait été la solution? Peut-être, est-ce que vous croyez peut-être à un retour d'Antoine Griezmann avec un nouveau coach à la tête des Bleus?
Voilà, Zidane en 2006.
C'est ça.
Non, parce que Deschamps, il bougera pas avant la Coupe du Monde de toute façon. Donc, et après la Coupe du Monde, Griezmann, il aura déjà 35 ans. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Et pour moi, Deschamps, il pouvait pas le rattraper. C'était avant. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Le fait de, au-delà du capitaine, le fait de ne plus l'avoir mis comme un joueur cadre de l'équipe. Les mecs qui sortaient pas, les mecs qui avaient une place de.
Qu'ils soient bons ou mauvais, ils sont là.
Et puis Griezmann.
Quand même Mbappé, on a pu voir, Mbappé n'était pas bon, était même. Il était moins bon que. Il a été même moins bon que Griezmann, faut le dire. Il sortait jamais moins bon et il sortait jamais.
Et Griezmann, de par son poste, c'est le lien entre milieu et attaque, c'est un poste central. Et s'il avait plus ces responsabilités-là, on l'exilait un peu côté droit pour. Faire le pendant d'Mbappé, le mec un peu qui défend, qui est charbonneur, c'est bien, mais Griezmann, c'était pas que ça. En équipe de France, c'était aussi la création, c'était tout ça, tout ce que Deschamps n'aime pas. Et je pense qu'il a vu qu'il avait plus cette place-là et qu'il était pas. Il a fait ce choix-là, mais c'était pas son choix en premier lieu. Et puis Deschamps pouvait plus le rattraper. Et Deschamps avait peut-être pas envie de le rattraper non plus.
Parce que je pense qu'Antoine Griezmann serait donné la chance quand même de jouer en 2026. Il n'est pas si vieux que ça. Hein. Et même avec les telles performances, en tant que capitaine, est-ce que vous pensez qu'il aurait pu aller plus loin chez Kenza?
Ouais, je crois qu'en tant que capitaine, vraiment, il aurait vraiment boosté un peu ses coéquipiers déjà. Parce qu'il monte sur le terrain aussi. Et c'est quelqu'un de très humble aussi. Donc voilà, c'est ce que ses coéquipiers aussi en ont dit et tout ça. Comme des Paul Pogba qui ont eu plus de vécu avec lui. C'est quelqu'un voilà, qui facilite les choses dans le groupe. C'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Donc du coup, parce qu'à l'Atlético, jusqu'à preuve du contraire, on n'en a jamais entendu parler que grâce à Grisou, il y a eu des problèmes dans le vestiaire et tout. Donc c'est quelqu'un déjà qui a une personnalité forte et tout, qui est un peu mature. Ouais, je crois qu'il en aurait fait même le meilleur capitaine, l'un des meilleurs capitaines de cette nouvelle ère. Peut-être à part Hugo, lui c'est un gardien, il peut donner de la voix, mais il aurait pu vraiment impacter les autres. La nouvelle génération qui vient d'arriver avec les Olysée et tout ça, il aurait vraiment voilà, passé le flambeau voilà, et sorti par la grande porte. C'est tout ce qu'on attendait. Mais Deschamps fait les choses comme personne d'autre ne le fait. Il a ses manières à lui, de manière très rigide. Donc, c'est vraiment un peu décevant. Mais on ne peut rien faire. C'est le football. Par moment, c'est comme ça. Par moment, on est dessus. Et nous, en tant que supporters français, vraiment, on n'aurait pas aimé voir Griezmann sorti par cette porte-là. Comme toute cette génération qui nous ont fait vivre en 2018.
Merci, Cheikh Kenza. Salson ?
Ouais, c'est, la question c'était.
Un petit dernier mot pour Antoine Griezmann, en vue de ce qui s'est passé dernièrement.
Bah, après, comme là, je rebondis un peu sur ce que vous avez dit. S'il avait le brassard, et moi je pense qu'il aurait continué. Après, je pense que la cassure s'est faite depuis que Mbappé a récupéré ce brassard. Pour moi, c'est fait depuis un peu à ce moment-là. Même s'il nous dit qu'il a digéré ça, mais c'est un peu, il y a eu une petite casseur avec Didier Deschamps. Même Didier Deschamps, même à chaque fois, il le sortait, il le rentrait, enfin, bah, le baladait un peu à gauche, à droite. Et c'est décevant. Je pense qu'il aurait pu continuer encore jusqu'à la Coupe du Monde. Mais s'il fait ça, c'est peut-être parce qu'à la fin de la saison, à mon avis, il va aller du côté de la MLS, rejoindre Lloris et Giroud. Et qu'il sera, s'il fait cette saison MLS, il sera plus apte à pouvoir postuler pour un poste en équipe de France en 2026. À mon avis, c'est peut-être pour ça aussi.
Et toi, Lucas ?
Moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est qu'au-delà même, on parle beaucoup de la perte du capitana, mais pour moi, c'est la perte de l'influence globale dans le vestiaire, en fait. On sait que une grosse sélection comme l'équipe de France, il y a des gros égos dans le vestiaire. Et des fois, c'est aussi un peu une lutte d'influence, un peu de façon politique. Et en fait, le fait de perdre en quelques mois Pogba, Giroud et Lloris, il a perdu des soutiens, des gens avec qui il était en sélection depuis longtemps.
Même N'Golo Kanté, hein, qui fait revenir après.
Varane, mais... c'est ça. Ouais. Varane aussi, voilà, j'en oublie, mais il y en a beaucoup. Voilà. Et en fait, c'est un peu notre génération qui a pris le pouvoir. Et je pense que peut-être que Griezmann, il ne se sentait plus vraiment à sa place, plus aussi central, comme on l'a dit, plus aussi important. Mais que là, ça aurait été la responsabilité de Deschamps qui lui montrait qu'il était toujours, en fait. On parle de manque de créativité. Là, on n'a pas vraiment de numéro 9. Est-ce que Griezmann faux 9 ça aurait pu être testé? Est-ce qu'on aurait pu faire des choses? Voilà. Moi, je pense qu'à la fois la perte d'influence avec le capitana comme vraiment comme fait marquant, plus les dernières déconvenues et un rôle à trouver, à revoir, le fait de plus être indispensable, ça a beaucoup joué. Et je regrette qu'il parte aussitôt parce que je pense qu'il avait encore des belles choses à faire en équipe de France.
Merci mes chers amis pour ces très belles analyses. On va enchaîner avec une petite virgule juste avant de revenir pour le petit quiz. J'espère que vous avez bien révisé vos fiches. À tout. Et ça va être parti. On va lancer le petit quiz avec Antoine Griezmann. La première question, est-ce que combien de sélections, ça a été dit, Salson, tu n'as pas le droit de le dire, combien de sélections a fait Antoine Griezmann avec les Bleus?
137.
137. Tu l'avais entendu ou...
Non, je l'avais, je l'ai vu en regardant
l'émission. En demi-point aussi ou...
44 buts.
Okay. Là, on va revenir sur... Bah, est-ce que quelqu'un pourrait donner la date du premier match d'Antoine Griezmann
2014.
Avec l'équipe de France?
2014.
Comment?
2014.
Non, 2013. Il joue la Coupe du Monde 2014. C'est fin 2013, je pense.
La date, je veux la date complète.
Novembre 2013.
Ouais. Octobre 2013.
Mai 2013.
Non, pas mai.
Moi, je dirais la trêve de fin d'année, octobre. À l'époque, c'était souvent en octobre, la trêve. Non, c'est pas ça du tout.
C'est mars 2014. C'est mars 14.
Non.
C'est ça, mars 14. Exactement.
Ah ouais, mars 2014.
Ouais, c'était mars 14. Est-ce que...
2014.
Non, c'était le 5 mars 2014. Bravo, Maxence. Je sais pas comment t'as rebondi de
c'est pas moi.
De
2014.
Oui, t'avais commencé par 2014.
Ah, je l'ai aiguillé.
Non, mais t'as changé après. T'as changé. Et est-ce que vous pouvez me dire combien... Bon, de buts, vous l'avez dit, mais il est combientième en termes de classement de buteurs?
Troisième.
Deuxième.
Troisième, deuxième.
Deuxième, c'est Giroud.
Troisième, et toi, chaque Kenza?
Giroud, premier.
Troisième, toi aussi, tu dis?
Ah non, c'est 47.
Maxence, attendez, Maxence, troisième. Toi aussi, troisième.
Quatrième, je pense.
Ok, il est quatrième, mais Salson, t'as joué un petit... Oui, t'as changé, mais oui, il est bien quatrième, hein, oui. Devant lui, Mbappé.
Mbappé l'a passé récemment.
Du coup, oui, il est bien quatrième. Et pour une dernière petite question, est-ce que vous savez combien de nombres de passes décisives a donné Antoine Griezmann?
37, non? Une trentaine? 34.
Combien?
37, on va dire.
Je prends chacun. 37 pour toi?
Comment 37?
Pour toi?
Combien de quoi?
De passes décisives avec les Bleus.
38.
38.
34.
31.
Et bah, le plus proche, il n'y a pas de score exact, mais le plus proche, c'était Lucas avec 31 et c'est 30 assists. Wow. Voilà, c'est quand même. Voilà, on rappelle quand même le palmarès de Antoine Griezmann. Hein, ça n'est pas rien, 137 sélections, 44 buts, 30 passes décisives. Il est là depuis plus de 10 ans, hein, 5 mars 2014 à là, son dernier match en 2024. C'est beaucoup. Et pour la dernière petite question, est-ce que le PSG s'est déjà imposé à Arsenal en 5 rencontres? Match amico et match...
Oui, match amico, sans carré en 2007 qui marque à l'Emirates Stadium, Emirates Cup, un truc comme ça. Younous sans carré marque à l'Emirates et il gagne avec un but de Loris Arnaud, un autre joueur, je ne sais plus. Il y a un truc comme ça, l'Emirates Cup 2006-2007, un match amical si tu me dis. Mais sinon, match officiel, je ne crois pas.
Ok, d'accord. Ça allait, faut pas tricher, sinon t'es disqualifié tout de suite.
J'ai reçu une notification.
Oui, non, mes mains en l'air, on n'a pas le droit de toucher. Du coup, toi, tu nous. C'était en quelle année?
C'était 2006 ou 2007, je pense. Son carré, c'est en 89. Ouais, 2007, je pense. 2008. PSG va gagner. Il gagne Valence et Arsenal en match de pré-saison. Tout le monde pense que Paris va faire une grande saison et finissent 14e, un truc comme ça. C'était les années tristes.
Emirates Cup, bah, c'était le 28 juillet 2007 et le score s'était soldé par 2-1 pour Arsenal.
Pour Arsenal.
Et le PSG en 5 rencontres n'ont jamais réussi à battre Arsenal et ont perdu, sont inclinés 2 fois à l'Emirates Stadium avec un match nul 2-2 en 2016 et à domicile un match nul aussi. Partout, avec Giroud notamment qui avait marqué face au Paris Saint-Germain, Verratti contre son camp et voilà, Iwobi contre son camp aussi, Cavani qui avait marqué pour le Paris Saint-Germain. Et le dernier match, c'était en International Champions Cup avec un but de Christopher Nkunku sur penalty. Et ils sont pris une déculottée 5-1 avec Mesut Ozil, Lacazette qui avait signé un doublé, Nketiah qui était là aussi et Holding. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup à vous, nos chers chroniqueurs, et on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup à nos chers auditeurs et auditrices. Merci à Léo, à la technique, et on se dit à la semaine prochaine. À très bientôt. Bonne soirée.